Bien, bonsoir à tous. Si vous voulez bien prendre place, merci. Myriam, si on peut m'apporter. Alors, Damien Meslot est présent. Sébastien Vivo.
Oui.
Florence Besancenot.
Oui.
Moustapha Lounès.
Présent.
Marie-Hélène Ivol.
Oui.
Jean-Marie Herzog.
Présent.
Delphine Mantré.
Oui.
Yves Vola. Marie Rochette Delante, Gérard Picpaille, Monique Monod, Pierre-Jérôme Collard, Marion Vallée, Jean-Pierre Marchand, Yann Boucard, Frida Baccaretti, Alain Picard, Marie Stabile, Parvin Cerf, Loubna Chekouat, Tony Knepp, Claude Joly, excusé, a donné pouvoir à Sébastien Vivo, Brice Michel, François Boron, Pascal Chaguet, Guy Corvec, excusé, a donné procuration à Yves Vola. Léa Manga, excusé, a donné pouvoir à Pierre-Jérôme Collard. David Dimet, Christiane Einhorn, Olivier Deroy, Brigitte Brun, Emmanuel Fiodo, Isabelle Héliot, excusé, a donné pouvoir à Jean-Pierre Marchand, Patrick Forestier, Samia Jabert, Jacqueline Guillot, René Schmitt, Francine Gallien, Alain Dreyfus-Schmidt, Laetitia Gilliot, Selim Guémazi, Bastien Faudeau, voilà, Isabelle Lopez, Marc Archambault, Patricia Boisumeau. Bon, mesdames et messieurs, cette séance du Conseil municipal est la première séance après les attentats du 13 novembre, et je voudrais qu'on la commence par une minute de silence en hommage à toutes les victimes des attentats. Alors, Monsieur Archambault m'a demandé la parole pour faire une précision quant à son appartenance.
Oui, merci Monsieur Meslot. Voilà, une précision que j'ai déjà faite au Conseil communautaire. J'ai donc quitté mon parti, le Front National. J'interviendrai donc au conseil municipal de manière personnelle et sans lien avec le programme de mon ancien parti.
Merci Monsieur Archambault. Nous prenons note de votre démission du Front National et du fait que vous siégez comme indépendant. Nomination du secrétaire de séance, je propose Emmanuel Fiodot. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non, il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, on doit passer au rapport numéro 2, qui est l'adoption du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 5 novembre. Or, je voudrais vous signaler une erreur qui s'est glissée dans le compte-rendu du dernier Conseil et dans la comptabilité des votes de Mme Lopez, dont je la prie de bien vouloir nous en excuser. Il est précisé dans la délib 1590 du groupe scolaire Ruclin qu'Isabelle Lopez s'était abstenue, alors qu'en réalité, elle a voté pour. Et dans la délibération 1589 Belfort Patrimoine, Isabelle Lopez aurait voté pour, alors qu'en réalité, elle s'était abstenue. Il y a donc eu une inversion, l'erreur est rectifiée et je vous prie de bien vouloir nous excuser pour cette erreur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Monsieur Schmitt.
C'est dans la délibération 1592 d'Aube. Vous écrivez que le d'Aube avait été adopté par 42 voix et une abstention. J'ai d'abord cru que c'était vous qui vous étiez abstenu, étant donné que vous étiez peu présent lors de ce rapport. Personnellement, cela m'avait choqué. Puis je me suis souvenu qu'il n'y avait pas de vote pour le Daube. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez retirer ce paragraphe du compte-rendu.
Effectivement, je vous remercie, M. Schmitt, mais ce n'est pas aux conseillers municipaux de comptabiliser les temps d'absence des élus, quels qu'ils soient, parce que si on faisait un compte, je pense qu'il serait très défavorable à certains d'entre vous. Je pense qu'on peut reprocher beaucoup de choses, mais me reprocher de ne pas être présent, je pense que certains sont plutôt mal placé pour le faire, mais en revanche, je prends effectivement en compte sur l'orientation budgétaire, il n'y a pas de vote, donc il convient de modifier. Décidément, on a du mal avec l'orientation budgétaire entre la CAB et la ville. Il y a quelques petites erreurs. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de rectification ou de précision? Oui, Madame Jabert.
Oui, toujours sur ce DOB, excusez-moi, mais il y a deux fois le même texte, en fait. Il y a un copier-coller par rapport à la délibération suivante, entre la délibération 1592 et la délibération 1593. Sur le DOB, on nous dit donc le remboursement sur la base de 24 euros de l'heure versée. Et en fait, c'est le texte.
C'est quelle page ?
C'est page 11.
11, oui. Alors, délibération, convention avec l'établissement du sang. Ah, c'est un copier-coller avec la page 12. Oui, oui, ce sera rectifié, effectivement. Très bien. Il y a d'autres remarques ? Non, il n'y en a pas. Ben, je vais mettre le rapport aux voix. On va faire un vote électronique. On peut ouvrir le vote. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Voilà, tout le monde a voté. Le vote est clos. Alors, 42 oui, une abstention et une non-participation au vote, Monsieur Faudeau. Rapport numéro 3, compte rendu des décisions prises par le maire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Monsieur Schmitt.
L'arrêté 15-727, page 5. Donc, il y a un recours qui a été engagé contre la ville par une société belfortaine sur l'indemnisation des travaux suite aux travaux réalisés sur la place d'armes. Je voudrais connaître l'entreprise, la société qui a fait un recours, s'il vous plaît.
C'est les trois maillets. C'est les trois maillets. Est-ce que c'est la réponse? Ah non, je vous réponds clairement. C'est... Ah oui, mais je croyais que vous vouliez plus de précision. Ah, d'accord, ok. Non, mais oui, vous avez le droit d'avoir un blanc et d'exprimer. D'autres questions? Non? Bon, on prend acte. Hein. Alors. Le rapport numéro 4, c'est le renouvellement de la convention d'adhésion au service de remplacement du centre départemental de gestion et de la fonction publique territoriale. Hein, donc, c'est le renouvellement pour 3 ans de la convention qui nous lie avec le centre de gestion. Cette convention de 3 ans pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Que vous avez des questions, on le renouvelle tous les 3 ans. Non, eh bien, je vais mettre aux voix. On peut ouvrir le vote. C'est ouvert, vous pouvez voter. Là, tout le monde a voté, le vote est clos. Alors, 41 oui, 2 abstentions. Madame Jabert. Ah, d'accord. Donc, si on peut rectifier, donc ça fait 42 oui. Donc, on met Madame Jabert dans les oui et Monsieur Archambault, toujours abstention. Vous n'êtes pas trompé, Monsieur Archambault? Non, d'accord. Merci. Ah, je sais pas. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, allez-y.
Oui, excusez-moi, Monsieur le maire, comme j'étais absente la dernière fois. Pourquoi on ne lit pas les rapports? Parce que là, je ne comprends plus rien.
Alors, les rapports, si vous voulez, on ne les lit pas en entier, puisqu'ils ont été envoyés à l'ensemble des conseillers municipaux. Donc, je fais un où l'élu dit de quoi il s'agit, demande s'il y a des questions, et ensuite le débat s'engage ou on passe au vote, parce que là, vous voyez, c'est le renouvellement d'une convention. Donc tous les élus sont censés avoir lu les rapports qu'ils reçoivent chez eux. Et là, c'est le renouvellement de la convention avec le centre de gestion. Et j'en ai parlé, mais je ne veux pas vous lire toute la convention qui est la même que celle qui D'accord. nous lit depuis très longtemps.
Je découvre, voilà, c'est pour ça que je
Oui, m'intéresse. Bien sûr. Merci. Voilà. Merci. Alors, on passe au rapport numéro 5. C'est le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. Vous savez que la loi NOTRe oblige les communautés de communes, oblige entre autres, parce que la loi NOTRe, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, contre laquelle j'ai voté, oblige les petites communautés de communes à fusionner, et le préfet doit proposer un schéma qu'on appelle de coopération intercommunale pour proposer des regroupements de PCI, des regroupements de communautés de communes ou de communautés d'agglomération. J'avais exprimé mon avis au préfet. Moi, j'étais plutôt pour un regroupement plus général des communautés de communes pour faire une grande communauté de communes. Le préfet a la main de ses propositions. Il a proposé à la commission de coopération intercommunale de fusionner la CAB, la communauté d'agglomération Belfortaine, qui, je vous le rappelle, comprend 33 communes et 97 000 habitants, avec la CCTB, la communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse, qui fait un peu plus de 8 000 habitants et qui comprend 20 communes, dont les plus importantes sont Bessoncourt, Fontaine et Montreux-Château. Mais pas de faire la liste, enfin, c'est toute la partie Est qui va vers l'Alsace, autour de Bessoncourt, de Fontaine et de Montreux-Château. Ce n'était pas mon choix premier, mais je trouve que ce schéma qui regroupe la CCTB, Communauté de communes Tilleul et Bourbeuse, avec la CAB d'à côté, qui regroupe les deux communautés de communes du Nord, le Tilleul et le Pays Sous-Vosgien, et qui laisse la communauté de communes Sud-Territoire, fait qu'il y aurait, s'il est adopté, deux communautés de communes et une communauté d'agglomération dans le territoire de Belfort. Je dois vous préciser que la communauté d'agglomération Belfortaine, jeudi dernier, a décidé de voter par 53 voix pour et 8 voix seulement contre ce schéma, et que la communauté de communes du Tilleul et de la Bourbeuse, dont on nous disait que les maires étaient opposés à l'entrée dans la CAB, a voté très majoritairement, 16 voix pour et 10 voix contre, l'adhésion à la CAB. Donc ce schéma est un schéma qui est approuvé par les communes concernées. Donc moi, je voterai pour, j'ai voté déjà pour à la CAB, et je voterai pour. Ce n'est pas la solution idéale, mais y a-t-il une solution idéale? Mais en tout cas, c'est la solution qui préserve le mieux les intérêts de Belfort et des communes de la communauté d'agglomération. Donc je voterai pour ce schéma, sachant que si on votait contre, on risquerait de nous mettre avec d'autres communautés de communes qui seraient, dont la fusion avec la CAB serait moins favorable aux intérêts des Belfortins et des communes adhérentes à la CAB. Donc je voterai pour ce projet qui est présenté par le préfet, et je vous invite à faire de même. Voilà, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non, il n'y en a pas. Eh bien, je vais proposer de mettre ce projet aux voix. Nous allons pouvoir ouvrir le vote. Le vote est ouvert, vous pouvez voter. Voilà. Le vote est clos. Donc, 38 voix pour, une contre et 4 abstentions. Madame Gallien, Madame Guillaume, Madame Jabert et Madame Lopez. Je vous remercie. Le rapport numéro 6 concerne l'affectation du reliquat de la dotation de politique de la ville pour 2015. Je vous propose donc de mobiliser le reliquat qui était de 187 806. Donc, pour des aménagements de la place de Franche-Comté à Bouchdel, nous sollicitons 66 600 euros de subvention. Pour la pose de Brise-Soleil au groupe Schulcher pour 21 206 et pour des travaux au gymnase Coubertin pour 100 000 euros, soit la totalité du reliquat, ce qui représenterait pour ces trois investissements une moyenne de 76% de subvention. Donc je demande au conseil municipal de m'autoriser à signer avec l'État tout document relatif à l'attribution de cette dotation 2015 d'un montant total, je le rappelle, de 735 139 euros. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Madame Jabert ?
Oui, monsieur le maire, chers collègues, lors de la première affectation, nous avions déjà pointé une problématique qui était de réserver l'ensemble de ces crédits politiques de la ville à des aménagements plutôt d'équipements municipaux. Pas que ça ne rentre pas, évidemment, dans le cadre de ces financements politiques de la ville, mais c'était de les faire exclusivement sur des aménagements. Je vous rappelle que les crédits politiques de la ville sont aussi là pour soutenir la vie associative, les projets portés par les bénévoles dans les quartiers, toute l'activité de solidarité qui peut se faire autour des initiatives associatives. Et là, je remarque que l'affectation finale, puisqu'au départ, je vous avais fait cette remarque, vous avez dit que vous l'assumiez. Aujourd'hui, nous affectons de façon finalisée ces budgets. Eh bien, nous constatons que le bilan est bien triste pour les habitants, puisque vous ne financez aucun des projets participatifs ou autres projets associatifs. Et vous affectez donc ces crédits à des travaux que nous pourrions tout à fait prendre en charge dans le cadre du budget général. Donc nous dénonçons ce dévoiement du principe de financement de la politique de la ville.
Très bien. Madame Jabert, ou l'art de parler pour ne rien dire. Je me permets de vous faire remarquer, Madame Jabert, que nous avons augmenté l'enveloppe globale des subventions aux associations de 99 000 euros, sans augmenter les impôts, et que pour les projets participatifs, nous ne faisons plus des projets participatifs qui sont discutés uniquement entre quelques personnes dans un bureau de l'hôtel de ville, puisque les projets participatifs ont été proposés dans l'ensemble des quartiers. Nous avons eu combien de votants, Delphine ? Plus de 1 200 votants, et que c'est une enveloppe de 130 000 euros qui a été consacrée là où nos prédécesseurs ne consacraient rien. Donc c'est 229 000 euros de subventions en plus pour les projets participatifs et les associations. Je crois que ça répond. En revanche, je pense que les élèves de l'école Schulcher seront ravis de notre initiative, les sportifs qui utilisent le gymnase Coubertin. Et quant à la place de Franche-Comté, je vous rappelle que c'est une promesse qui date de 25 ans de l'ancienne municipalité, 22 ans pour être précis, de raser ces horribles cubes qui défigurent cette place, et que tout cela est fait dans des quartiers prioritaires, comme le rappelle très justement Marie-Hélène Ivol. Voilà, très bien. Eh bien, oui, Madame Guillot.
Oui, monsieur le maire, je crois que vous mélangez tout, là. Vous mélangez les projets politiques de la ville et puis les enveloppes conseil du quartier. Pour avoir été président de conseil du quartier, je vous ai peut-être jamais vu, ou rarement, vous avez emmené une fois un arbre à mon conseil de quartier Vieille-Ville. Je vous rappelle que chaque conseil de quartier avait une enveloppe pour un projet qui était discuté et qui était fait à l'intérieur même des conseils de quartier. D'ailleurs, je vous invite à venir visiter rue des Tanneurs, celui qui avait été élaboré avec celui de la Vieille-Ville.
Yann Boucard.
Non, je crois que c'est bien ce que... Bonjour à tous, pardon. Je crois que c'est bien ce que le maire a dit, parce qu'effectivement, dans les conseils de quartier précédents, on a repris les statistiques de fréquentation, il n'y avait malheureusement pas grand monde. Il y a une nouvelle dynamique qui s'est mise en place grâce au projet porté par Delphine Matré. Effectivement, maintenant, on arrive à avoir 1200 votants sur des projets participatifs. On a des conseils de quartier, je prends l'exemple du mien, puisque, comme vous, j'ai l'occasion d'y être souvent. On est plus de 100 à tous les conseils de quartier, là où mes prédécesseurs avaient malheureusement pour eux, bien sûr, 8 et 9 participants lors des derniers conseils de quartier. À ce niveau-là, c'est plus de la participation, c'est... Oui, c'est de l'abstention.
Merci, Monsieur Boucard. Je voudrais simplement préciser, effectivement, Madame Guillot, que habitant 2 avenue Jean Jaurès, j'ai allé au conseil de quartier Centre-Ville et Jean Jaurès-Châteaudun, qui étaient les miens, parce que je considérais, contrairement à certains des anciens élus battus, que conseil de quartier est là pour traiter les problèmes des gens et pas pour faire de l'agitation politicienne, comme certains de vos anciens élus, qui ont d'ailleurs démissionné du conseil municipal, n'étant plus rémunérés en tant que conseillers d'opposition, qui viennent essayer de semer la zizanie. Voilà, eh bien, je vais mettre maintenant ce rapport au vote. Donc, nous allons pouvoir ouvrir le vote. Je vous demanderai d'être correct, Madame Jabert. Mais écoutez, écoutez, madame, je n'ai pas parlé de l'autre. Quand je vous parle, je dis Madame Jabert. Quand je parle à Madame Guillot, je dis Madame Guillot. Et je ne me permettrai pas d'utiliser des termes comme l'autre. Voilà, nous pouvons donc désormais voter, malgré les vociférations de Madame Jabert. Donc, mais ne vous énervez pas. Allez, allez. Alors, vous pouvez voter. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Très bien. Alors, 34 oui, 2 non. Vous n'êtes pas trompé de bouton, Mme Jabert ? Je ne corrige pas votre vote ? Non ? Donc, 2 non, 3 abstentions et 4 non participation au vote. Merci. Je vais passer au rapport numéro 7 sur la ZAC de l'hôpital, le bilan de la concertation préalable. Vous avez eu l'ensemble des consultations qui sont passées. Nous avons eu une grande réunion qui a rassemblé plus de 600 personnes. Ça a été un grand succès populaire. Beaucoup de gens, effectivement, sont venus. Nous avons récolté un certain nombre d'avis. L'ensemble de ces éléments montre le grand intérêt porté à ce projet par les Belfortins. Leur adhésion à la réalisation d'un quartier d'habitat de qualité en articulation avec l'environnement du secteur, notamment du Square Lechten, mais aussi avec le commerce de proximité, leur souci de maintien d'une fonction santé sur le site. Ces considérations issues de la concertation préalable, dont je vous demande de prendre acte, sont partagées par les élus de la ville de Belfort. Un prochain rapport portera sur la poursuite de la procédure légale. Voilà. S'il y a des questions, des interrogations, oui, Madame Jabert.
Oui, nous avons donc un rapport assez succinct qui reprend les éléments de concertation. Vous nous avez mis dans le dossier le document qui a été inséré dans le Belfort Mag pour informer les habitants, le courrier d'invitation, les revues de presse. Tout ça, c'est très bien. Le PowerPoint que vous avez présenté à la réunion, tout ça, c'est très bien. Mais on aurait plutôt aimé avoir le détail de cette concertation, de ce qui a été remonté par les habitants. C'est surtout cela qui nous intéresse. Donc, si on pouvait en avoir connaissance, j'ai bien compris que vous en aviez fait un résumé, mais on considère qu'il est un petit peu light. Deuxièmement, c'est un projet sur lequel, donc, à ce stade, nous avons fait le choix de ne pas prendre position, puisqu'en effet, sur le principe, nous ne sommes pas opposé à récupérer évidemment cette friche urbaine très très importante pour le développement et le devenir de notre ville. Nous serons simplement vigilants sur plusieurs points. La question immobilière, puisque, mais on y reviendra lors d'un prochain rapport, ce projet va évidemment transformer l'offre en matière immobilière de la ville et donc c'est un sujet sur lequel nous serons vigilants puisqu'aujourd'hui il y a évidemment une problématique de vacances importante dans les logements privés. Sur la question de la mixité sociale, nous ne lâcherons pas non plus, même si votre positionnement a été annoncé en la matière. Les questions environnementales également, nous serons assez vigilants là-dessus. Et puis, dernier point, l'insertion urbaine et notamment la hauteur des bâtiments. Mais à ce stade, voilà. Nous prenons acte de la concertation et attendons donc la suite. Merci.
Merci. D'autres interventions ? Oui, Olivier ?
Juste une petite précision pour indiquer qu'on ne pourra pas encore parler de friche puisque l'approche du dossier est une approche préventive et le fait de travailler très en amont le projet avant que ça devienne une friche, voilà, c'est une démarche pragmatique.
Oui, tout à fait. Je vous rappelle que l'hôpital a prévu de déménager en novembre 2016. J'en discutais encore récemment avec le directeur de l'hôpital, mais nous avons là un beau projet pour faire un beau quartier immobilier dans le centre de Belfort et répondre à la demande. Vous avez vu que nous avons eu confirmation par Mark Hutchinson, qui est un des bras droits de Jeff Immelt à General Electric, conformément à ce qui avait été annoncé, plus de 500 emplois seraient implantés à Belfort. Donc il faut relever le défi de ces nouveaux emplois, faire une offre immobilière de qualité, et ce projet sera tout à fait adéquat pour répondre à la demande que nous verrons poindre. Mais bien évidemment, ce quartier doit être un quartier qualitatif. Il n'y aura pas de logements sociaux. Nous en avons déjà beaucoup et j'ai annoncé très clairement les choses dès le départ. Ce ne sera pas un quartier de logement social, ce sera un quartier privé, d'accession privée à la propriété, avec des logements neufs, BBC, qui correspondra à ce que souhaite la population aux demandes que nous avons. Voilà. Bien, nous continuerons. C'est la première étape. Nous avons voulu prendre ça très en amont, discuter avec la population. D'ailleurs, les gens sont très heureux que pour une fois, on les concerte avant même que les choses soient lancées et qu'on ne leur propose pas un projet tout ficelé. Et moi, je vous invite, Madame Jabert, vous dites que vous allez être vigilante. J'espère surtout que vous serez participative, parce qu'on entend souvent de la critique, mais je souhaite qu'elle soit constructive. Et vous avez toute votre place à prendre pour nous donner des bonnes idées que nous sommes prêts à prendre à partir du moment où ce sont des idées réalistes et qui peuvent s'intégrer dans notre plan global de redressement de Belfort et d'amélioration de la qualité du logement à Belfort. Voilà, nous allons passer au rapport suivant, le rapport numéro 8, et je vais passer la parole à Sébastien Vivot.
Merci, Monsieur le maire. Donc, rapport numéro 8 concernant la fourniture de gaz naturel. Donc, le lancement d'un accord cadre, un rapport purement technique, car nos accords cadres d'aujourd'hui arrivent à échéance au 30 janvier 2016. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure d'accord cadre prévue à l'article 76 du Code des marchés publics et à signer l'accord cadre à intervenir, y compris les marchés subséquents fondés sur celui-ci, est destiné à permettre l'approvisionnement en gaz naturel des chaufferies gérées par la ville de Belfort.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Je vais mettre aux voix. Vous pouvez ouvrir le vote. C'est ouvert. Vous pouvez voter. Tout le monde a voté ? Eh bien, le vote est clos. Alors, 42 oui, une abstention, Monsieur Archambault, tout est normal. Rapport numéro 9, la parole à Sébastien Vivot.
Merci, Monsieur le maire. Encore un rapport technique concernant la délégation de production, de transport et de distribution de chaleur des glacis. L'avenant numéro 6, qui est induit par une modification de l'INSEE sur des indices de révision qui ont été revus. Je rappelle que le caractère administratif de cet avenant ne génère pas de modification des tarifs de base de vente de la chaleur. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant numéro 6 à la délégation de production, de transport et de distribution de chaleur des glacis du château et d'autoriser Monsieur le maire à le signer.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Des interrogations ? Non, c'est un dossier assez technique. Je vais mettre aux voix. Vous pouvez voter. Monsieur Boucard a voté ? Oui, très bien. Eh bien, le vote est clos. Alors, 48. Non. Monsieur Vivot.
Ah, il est pressé. On corrigera.
Bon, alors, il faut corriger. C'est Monsieur Vivot aujourd'hui qui s'est trompé de bouton, là. Il remplace Madame Jabert. Bon, eh bien, voilà. Allez, chacun son tour. Bon, eh ben on corrigera. Monsieur Vivot avait l'intention de voter pour, mais il était troublé par sa voisine.
Même pas.
Alors, rapport numéro 10, la parole est à Sébastien Vivot.
Donc, encore un rapport technique sur le lancement d'un appel d'offres ouvert pour la fourniture de produits d'entretien marché à bon de commande. Les quatre différents lots vous ont été détaillés dans le rapport. C'est une durée totale de marché de 3 ans. Donc, il est demandé au conseil municipal d'adopter les dispositions proposées dans le rapport, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à lancer la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux articles 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics et qui fera l'objet d'une publicité communautaire, à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion du marché concernant cet appel d'offres avec le ou la avec là ou les sociétés qui seront désignées comme attributaires par la commission d'appel d'offres.
Oui, monsieur Schmitt.
Je lis dans le rapport que vous allez acheter, dans l'appel d'offres, qu'il y a des produits et matériels de développement durable. Pour moi, le développement durable est quelque chose de transversal et tous les achats devraient être concernés et prendre en compte cette logique de développement durable. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ?
C'est un lot spécifique qui avait été créé il y a un certain temps et on a repris les mêmes bases de consultation que les derniers marchés. En fait, on ne fait que de relancer un marché qui arrive à échéance et on a gardé les mêmes découpages de lots qu'autrefois. Oui, oui.
Bien. Je peux mettre le rapport aux voix. Vote est ouvert. Enfin, va être ouvert. Voilà, vous pouvez voter, Sébastien, c'est fait. Voilà. Merci. Le vote est clos. Alors, Madame Montré n'a pas participé au vote. 41 oui, une abstention, une non-participation au vote, Madame Montré. Qu'il faudra corriger, elle souhaitait voter pour. Ce soir, on voit que Noël approche, hein, on se dissipe. Rapport numéro 11, la parole est à Jean-Marie Herzog.
Merci, monsieur le maire. Rapport numéro 11, délégation de services publics pour la construction et l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement et déclaration donnée sans suite. Aussi, il est demandé au conseil municipal d'approuver la déclaration sans suite de la procédure de délégation de services publics portant sur la construction et la gestion d'un parc souterrain de stationnement à la Maison des Arts et du Travail.
Il y a des questions ? Oui, monsieur Dreyfus-Schmidt.
Oui, merci, monsieur Meslot. Avec cette déclaration sans suite de la DSP que vous vouliez lancer pour la construction et l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement, vous faites, a priori, on l'a déjà dit, machine arrière toute. Tout penaud, vous êtes bien obligé, enfin c'est plutôt votre adjoint, étonnant d'ailleurs, à nouveau ce soir devant le conseil municipal, que vous étiez parti, comme c'est souvent le cas, un peu rapidement la fleur au fusil sur un projet sans avoir réfléchi à ses conséquences. Promesse électorale quand tu nous tiens, ou désormais quand tu ne nous tiens plus. Nous avions pourtant alerté le conseil municipal à plusieurs reprises dans cette assemblée sur le non-sens, la folie des grandeurs que représenterait la réalisation de cet équipement pour diverses raisons que vous me permettrez de rappeler rapidement. Tout d'abord, l'inutilité de ce projet du fait du déménagement récent du conservatoire de musique hébergé à La Matte sur le site du Foratrie et du déménagement à venir de l'hôpital à Trévenans. Ces aménagements ont pour effet de libérer de nombreuses places de stationnement et de plus, comme vous le savez, de nombreux parkings en centre-ville ne sont pas saturés, comme par exemple le parking des Quatre As. Ensuite, après l'inutilité, le coût exorbitant pour la construction et l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement et de la gestion du stationnement payant sur voirie qui devait être confié à un prestataire après appel d'offres. La ville allait mettre au pot pour attirer un investisseur. Cette participation, comme l'ont confirmé les offres pour la DSP, se montera à plusieurs millions d'euros, alors que vous nous aviez expliqué, comme d'habitude, avec votre fanfaronnade légendaire dans cette même assemblée, que ce projet ne coûterait rien à la ville de Belfort. mensonge quand tu nous tiens. Enfin, last but not least, la privatisation de l'ensemble du stationnement du parking payant sur voirie avec la perte de plus d'1 500 000 euros de recettes de stationnement chaque année. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux tard que jamais. Vous venez en effet seulement de vous apercevoir de votre erreur et pour noyer le poisson, comme à votre habitude, vous expliquez au Belfortin que vous reportez ce projet à cause de la baisse des dotations de l'État. Encore un mensonge. Vous saviez effectivement parfaitement que cette baisse était connue bien avant que vous ne lanciez cette consultation pour la mise en œuvre d'une délégation de services publics pour la construction et l'exploitation d'un parc souterrain. Avec ce virage à 180 degrés, vous avouez tout à la fois votre amateurisme et votre mauvaise foi. Je vous remercie.
Merci, monsieur Dreyfus-Schmidt. Oui, madame Jabert va en mettre une deuxième couche.
On est là pour ça, hein.
Je ne vais pas en mettre une deuxième couche. Je suis juste là avec mes camarades pour représenter l'ensemble des Belfortins qui nous ont élus et qui ne vous ont pas simplement donné leur confiance. J'en rajouterai en effet pour revenir un peu à la genèse de ce projet. Parce que dès le début, j'avais le pressentiment, et nous l'avons dénoncé, que ce projet n'était pas tout à fait seulement un projet de parking, mais plutôt un projet immobilier, une affaire juteuse pour un investisseur. Alors, je ne sais pas lequel, mais il devait y en avoir sûrement de nombreux, compte tenu du lieu où devaient se construire ces bâtiments. Alors, vous avez décidé, d'ailleurs en total catimini, d'abandonner le projet immobilier. Ici, vous étiez là à redire que ce projet allait se faire, qu'il avait été mis dans votre programme, que vous étiez en effet droit dans vos bottes et que rien n'allait modifier cette trajectoire. On a appris tout à fait par hasard au détour d'un compte rendu de conseil de quartier centre-ville que vous abandonniez le projet immobilier. On en était, nous, restés à un projet immobilier. Mais bon, ce n'est pas très grave. En tous les cas, c'est cette information qui a ensuite provoqué la cascade de mauvaises nouvelles pour vous pour sortir ce projet, puisque économiquement, ce projet n'était viable qu'avec un projet immobilier d'envergure, bien sûr pour la construction de logements de grand standing avec vue sur les Vosges et sur la Savoureuse. L'opération était évidemment très alléchante. Ensuite, eh bien, vous avez eu quelques soucis pour boucler votre projet d'un point de vue économique, puisque l'opération était complète entre l'investissement parking et l'investissement immobilier. Alors, vous avez sorti de votre chapeau. Alors là, de la même façon, en total catimini, une DSP, une délégation de services publics et donc une privatisation de l'ensemble du stationnement que j'avais découvert au détour d'une petite ligne qui ne voulait pas dire tout à fait ça, mais au moment où j'ai posé la question en commission consultative des services publics à votre adjoint, il m'a confirmé qu'en effet, la proposition était de privatiser l'ensemble du stationnement. Et je le cite, et les services sont là pour le redire, pour le confirmer, que sans cela, aucun investisseur ne serait prêt à venir à Belfort. Alors ça, monsieur Herzog, on le savait. Le dernier point, et c'est un point important, parce que vous l'avez vous-même mis en avant. Vous avez dit ici qu'on pourrait d'ailleurs ressortir les bandes d'enregistrement, que vous aviez rencontré les Galeries Lafayette qui attendaient avec impatience ce parking pour pouvoir développer leur surface commerciale, y faire venir de nouvelles enseignes, H&M et compagnie. Vous avez vous-même tenu ces propos. À l'époque, nous vous avions alerté sur le fait que ce n'était pas tout à fait ça ce qu'attendaient les Galeries Lafayette, parce que nous les avions rencontrés et qu'ils avaient décidé au niveau national de ne pas investir sur leurs locaux commerciaux et qu'ils étaient en pourparlers avec d'autres investisseurs qui devaient acheter les locaux, l'ensemble des locaux des Galeries Lafayette, les restructurer, ces mêmes promoteurs qui étaient évidemment intéressés par un parking, pas sur la mat, mais bien sûr dans la dent creuse à l'arrière de leur surface commerciale. Alors ma question aujourd'hui, puisque vous nous avez dit que les Galeries Lafayette attendaient avec impatience ce parking, quid aujourd'hui du développement des Galeries Lafayette ? Mais comme vous avez visiblement de très bonnes relations avec eux. Vous allez sûrement nous dire ce que vous allez faire pour pouvoir leur permettre d'avancer dans cette restructuration. Voilà, tout ça pour dire que vous nous avez bien menés en bateau. Vous avez surtout mené en bateau les Belfortins. Ce dossier qui devait être le dossier de votre mandat, le principal projet de votre mandat, eh bien, révèle en réalité votre politique, celle de l'amateurisme, ça a déjà été dit, mais surtout celle des vices cachés que vous évitez de dire. Et bien sûr, nous sommes là, nous avons été là et nous pouvons nous en satisfaire pour pointer à chaque étape de ce dossier les manquements et puis surtout les non-dits. Merci.
Merci. D'autres prises de parole ? Monsieur Archambault.
Merci, monsieur le maire. Alors, moi, j'étais contre ce projet. Je suis donc tout simplement satisfait de son abandon.
Oui, monsieur Archambault, c'est quand vous serez pour un projet qu'il faudra nous le dire. Parce que jusqu'à présent, je ne vous ai pas vu vous prononcer pour beaucoup de projets. Il me semble qu'il y en a eu très peu. Alors, je ne veux pas reprendre toutes les inepties. Vous avez parlé d'erreurs. L'erreur, c'est l'élection de François Hollande qui a entraîné une baisse de 12 millions d'euros des dotations. Or, vous dites les dotations, c'est un mensonge. C'est probablement pour ça que des dizaines de milliers de maires de droite comme de gauche ont fait une grande journée de mobilisation contre la baisse des dotations qui a réuni plus de 80% des collectivités locales, des mairies, contre ça. Vous dites que j'ai annoncé le retrait du parking au Catimini. Or, si une conférence de presse avec tous les médias locaux, c'est de la Catimini, je ne comprends plus bien l'essence de ce terme. J'ai fait simplement ce que font tous les foyers. Quand il y a des revenus en baisse, eh bien, on baisse les dépenses. Comme l'État nous vole 12 millions d'euros pour financer les erreurs multiples et nombreuses de ce gouvernement, eh bien, je réduis mes dépenses en conséquence. C'est simplement de la bonne gestion. Le parking n'était pas le projet du mandat, comme vous voulez nous le faire croire. C'était un projet, je le reporte, parce que je considère qu'actuellement, avec les baisses de dotation de l'État, nous avons des difficultés. Nous aurions des difficultés à le mener de front avec les autres choses. Et pour le moment, oui, je priorise les investissements que nous aurons à faire dans le cadre des 500 créations d'emplois à General Electric. Parce que ce que vous oubliez de dire, c'est que les implantations que nous obtenons de General Electric, ce sera les plus fortes implantations d'emplois à Belfort depuis 50 ans. Et ceux qui ont dit qu'il ne faut pas la fusion de General Electric avec Alstom, il faut nationaliser Alstom, si on avait fait ça, on aurait eu zéro création d'emplois. Or, j'accepte toutes les critiques. L'opposition est dans son rôle de pousser des cris d'orfraie, de faire et tout. Mais mon programme électoral, je le respecte, mais je m'adapterai toujours aux situations économiques et je ne mettrai pas cette ville dans la dans la catastrophe où vous nous l'avez laissé, 73 millions d'euros de dette, je vous rappelle, c'est ce que vous nous avez laissé. Moi, je n'entraînerai pas la ville là-dessus. Je développe la ville, je construis des choses, j'attire de l'emploi, je fais des programmes immobiliers pour répondre aux demandes des nouveaux emplois qui seront créés. Et voilà, voilà comment ça se passera. Et puis les Belfortins jugeront. Nous avons 18 mois de mandat. Nous verrons au bout des 6 ans quel sera le jugement des Belfortins. Ça s'appelle la démocratie. Mais vous êtes dans votre rôle de critiquer. Ah non, je prends une fois, je ne redonne plus la parole après, exactement comme vous le faites. Donc je vais maintenant... Je vais donc demander de mettre aux voix. Vous pouvez ouvrir le vote. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Voilà, merci. Le vote est clos. Donc, il y a 41 voix pour, une abstention et une non-participation au vote. Rapport numéro 12, je passe la parole à Jean-Marie Herzog.
Merci, monsieur le maire. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un projet de convention intercommunale Belfort et Serres portant sur l'entretien des espaces du parc du Mont. Vous avez vu que nous avons fait un parking de 40 et quelques places. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider les termes de la convention à intervenir avec la commune des Serres et d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, il n'y a pas de questions. Je voudrais me féliciter de la création de ce parking qui se situe au-dessus de la rue de la Fraternité, qui était demandé depuis des années par les habitants, ce qui n'avait jamais été réalisé. Et ce parking va permettre de donner des solutions de stationnement à beaucoup d'habitants qui n'en avaient pas. Donc, je voudrais féliciter particulièrement, il n'est pas là, Guy Corvec, qui a suivi avec Jean-Marie Herzog et l'ensemble des services ce projet qu'il a mené à bien. C'est une belle réalisation et je remercie aussi Yves Gaume, le maire des Serres, de nous avoir autorisé à réaliser ce beau projet. Voilà. Oui, monsieur Schmitt.
C'est une question de détail, mais il me semblerait important que le chiffrage de ce parking apparaisse dans le rapport et ça n'apparaît pas. Comme malheureusement plusieurs fois déjà.
Oui, alors là, si vous voulez, c'est la convention. On a déjà fait passer un rapport avec le coût du parking. Vous pouvez nous le...
Le coût est de 50 000 euros.
Voilà. Donc, mais on a déjà eu un rapport, puisque quand on a fait les travaux, ça a été inscrit. C'est des choses qui ont été inscrites. Hein. Donc, c'était, mais il n'y a pas de souci. On ne l'a pas rappelé parce qu'on l'avait déjà donné. Hein. Il n'y a pas de secret. Vous pouvez avoir un document. Là, c'est juste un projet de convention pour l'entretien des espaces du parc du Mont. Hein. Voilà, merci. Donc, je ne sais plus, on l'a mis au vote ou pas ? Non, on ne l'a pas mis au vote. Alors, je le mets au vote. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert, vous pouvez voter. Voilà, merci. Le vote est clos. Alors, 42 oui, une abstention, merci. Rapport numéro 13, la modification du PLU 2015, approbation après enquête publique. La parole à Jean-Marie Herzog.
Donc, comme vous avez pu le voir, c'est la modification du plan local d'urbanisme. C'est rien qu'une modification en attendant la révision complète. Donc, aussi, il est demandé au conseil municipal de surseoir à la modification de zonage du site de l'ancienne laiterie, que nous verrons ça début de 2016, d'approuver la modification du PLU avec les correctifs apportés au dossier, soumis à l'enquête, telles qui viennent de vous être présentées, afin de tenir compte des remarques de la population et de lever les réserves du commissaire. La présente délibération fera l'objet des formalités de publicité prévues à l'article R123-25 du Code de l'urbanisme, étant entendu que chacune des formalités mentionnera que le dossier sera publié sur le site internet de la ville, ce qui est fait, et pourra être consulté au service urbanisme pendant les heures habituelles d'ouverture. Ainsi, elle sera affichée pendant un mois en mairie et mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans le journal diffusé dans le département. De même, elle sera publiée au recueil des actes administratifs. Enfin, le PLU modifié sera tenu à disposition du public au service urbanisme et accessible sur Internet.
Merci. Je vais demander de suspendre la séance parce que Mme Voynier, je crois, voulait intervenir pour faire une remarque. Elle me l'a demandé, donc je suspends la séance et je donne la parole à Mme Voynier. Si on peut lui apporter un micro, si elle veut bien se lever pour que... Voilà, c'est bien. Voilà, je crois que vous vouliez...
Monsieur le maire, merci. Je dois presser
quelque chose. Il faut juste la mettre tout près de votre... Voilà. C'est bien.
Merci, monsieur le maire. Je voulais simplement intervenir pour saluer au nom des habitants du quartier la probité et le travail du commissaire enquêteur qui a approfondi le dossier et grâce à lui, on peut dire, le projet de construction immobilière à l'étang des Forges sur l'emplacement de l'ancienne laiterie sera suspendu en attendant de plus amples informations concernant par un architecte comment un architecte indépendant. Indépendant, j'ai pas préparé mon intervention, c'est pourquoi je suis pas très à l'aise. Donc un architecte indépendant pour proposer une étude qui serait plus explicite concernant différentes choses, la densité de la population à intégrer sur ce site, la hauteur des immeubles concernant la vue et puis l'espace visuel qui doit être maintenu sur l'étang et à partir de l'étang sur la ville. Voilà, la population salue le travail du commissaire enquêteur. Voilà, merci Monsieur le Maire. Merci.
Madame Boignier, je dois vous dire que nous sommes très contents de la façon dont ce projet évolue, puisque par rapport au projet ficelé que nous avions trouvé en arrivant, nous avons engagé une concertation au sein des conseils de quartier. Nous avons montré le premier projet qui n'allait pas à la population. Nous avons demandé qu'il soit revu à la baisse, n'ayant aucun lien avec l'agent immobilier en question. Ça a permis d'avoir une grande indépendance. Nous avons lancé l'enquête d'utilité publique. Le commissaire enquêteur a fait un certain nombre de remarques, a demandé une étude complémentaire. Et nous allons réaliser cette étude que nous reproposerons aux habitants. Et je précise, pour que ce soit bien clair, que contrairement à ce qui se faisait dans d'autres enquêtes d'utilité publique où c'était fait en catimini à la mairie, j'écris à tous les habitants du quartier, je leur ai envoyé un courrier nominatif pour leur signaler qu'il y avait l'enquête d'utilité publique, pour leur donner les horaires et le lieu où ils pouvaient s'exprimer. Et nous avons une trentaine d'avis sur 1500 habitants, ce qui montre que les gens souhaitaient donner leur avis, mais que ce n'était pas non plus quelque chose qui révolutionnait et qui affolait tout le monde, comme certains voulaient le laisser croire. Mais en tout cas, il y a une vraie discussion avec les habitants du quartier, et ça, c'est la démocratie participative telle que nous souhaitons la voir, et nous continuerons à discuter jusqu'à ce que nous arrivions à un projet qui soit conforme à ce que souhaite le commissaire enquêteur et conforme aux souhaits de la majorité de la population. En tout cas, j'en suis très satisfait. Je voudrais féliciter Jean-Marie Herzog et les services d'urbanisme et aussi le commissaire enquêteur, dont je salue l'action, comme Madame Voynier. Je crois que cette opération a été une très belle opération. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Madame Jabert.
On a repris le conseil municipal, c'est ça? Vous avez clos l'interruption, monsieur le maire?
Et clos l'interruption, oui, je vous ai redonné la parole. Donc ça veut dire que la suspension est close.
Je vais d'abord intervenir sur le rapport et ferai une petite remarque à la fin de ma présentation, parce que ce rapport est évidemment important. Quelques remarques sur ce rendu d'enquête. D'abord sur les deux points essentiels, sur le dossier de la laiterie, puisqu'il en a été question dans le cadre de cette suspension de séance. En introduction, je voudrais dire que nous sommes donc satisfaits qu'une étude soit lancée sur proposition du commissaire enquêteur, parce que cette étude, nous l'avions demandée ici même. Pour revenir un peu au niveau de la genèse de ce dossier de la laiterie, le projet de la laiterie, nous nous en sommes tout de suite emparés au moment où vous l'avez présenté dans ce conseil municipal, parce que, en effet, nous en connaissions l'histoire et surtout une partie de l'aboutissement qui avait été décidé par l'équipe précédente. Il y a une étude qui a été faite par l'agence d'urbanisme. Plusieurs scénarios ont été proposés avant donc les élections de mars 2014. La municipalité de la ville de Belfort a donc été saisie de ces quatre scénarios présentés à l'époque par l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme, Hubert Belz. Nous avons, et je vous invite à retrouver les délibérations de la municipalité, acté le fait que nous privilégions le scénario qui proposait justement une mixité du bâti avec une hauteur tout à fait adaptée au secteur de l'étang des Forges. Et donc, je voudrais le redire ici, haut et fort. Jamais il a été question de valider le dossier que M. le maire a présenté ici. Ça n'était pas du tout notre projet. Vous pouvez le dire, le redire, ça n'en fera pas une vérité puisque nous avons des documents administratifs pour le prouver. Quand vous avez présenté ce rapport au conseil municipal, nous nous en sommes émus et nous avons fait le choix de faire une réunion publique à laquelle nous avons invité notamment les riverains. Nous l'avons fait de façon non polémique, sachant qu'on était en période préélectorale. Ceux qui ont assisté à cette réunion en sont témoins. Nous avons simplement voulu présenter ce que vous avez refusé de présenter lors des deux conseils de quartier que vous avez dédiés à ce projet. Puisqu'en effet, vous avez présenté votre choix. Et vous n'avez pas présenté l'ensemble de l'étude et les différents scénarios qui étaient proposés. Nous avons donc présenté l'ensemble des projets. Nous leur avons indiqué quel était celui qui avait été privilégié par la municipalité précédente parce que nous n'avons pas non plus d'intérêt particulier ni de relation particulière avec cet investisseur. Je voudrais le redire ici puisque vous faites quelques allusions qui sont extrêmement graves. Sur cette réunion, nous avons simplement fait le choix de la transparence et de l'information. Et nous avons dit aux riverains qu'il leur appartenait, maintenant qu'ils avaient l'information qui ne leur avait pas été donnée, de s'organiser pour vous faire remonter leurs inquiétudes. C'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont lancé une pétition qui a été signée à plus de 800, plus de 800 personnes ont signé cette pétition. Et c'est en effet grâce à cette pétition que vous avez fait le choix de revenir sur ce projet. Je ne vous reproche pas, évidemment, cette volte-face. Elle est bien sûr tout à fait bien accueillie, puisque vous avez eu les retours des habitants, des retours qu'ils n'ont pas pu vous faire en réalité en conseil de quartier, parce qu'ils n'avaient pas l'ensemble des informations. Même quand l'architecte du projet est venu le présenter, puisque l'ensemble des documents n'ont pas été apportés à leur connaissance. Voilà, je voulais juste redire cela sur la laiterie. Donc nous sommes évidemment très heureux du choix également, comme a pu le dire Claudine Vanier, de la proposition du commissaire enquêteur pour lancer une étude urbanistique, parce que ce secteur-là, nous l'avons dit à deux reprises lors de ce conseil municipal, dépasse en réalité les riverains du secteur, puisque c'est un endroit qui profite à l'ensemble des Belfortins, un poumon vert au sein de la ville, et on était très préoccupés par le choix des mégastructures que vous aviez fait, qui étaient évidemment d'un point de vue urbain pas du tout adaptées au secteur, parce que sur le secteur il y a essentiellement des maisons et quelques bâtiments qui ne sont pas très élevés au niveau des étages. Et ce secteur-là, eh bien, il devait évidemment profiter à l'ensemble des Belfortins, puisque la vue sur l'étang des Forges doit être aujourd'hui la propriété de l'ensemble des Belfortins et pas de certains particuliers. Les mégastructures, nous leur reprochons plusieurs choses, la densité qu'elles apportent, mais aussi la problématique de la hauteur. Donc, nous sommes très heureux que cette étude urbanistique vienne compléter l'ensemble de ces éléments. Et je ne doute pas, en effet, que la reprise de ce dossier se fasse de façon convenable. Parce que, je le redis ici, nous ne sommes pas contre l'urbanisation. Nous souhaitions simplement qu'elle soit moins dense. Sur l'enquête concernant quelques mots sur le quartier du Mont, il a été indiqué, et le commissaire enquêteur le dit également, regretter qu'une ville de notre strate abandonne toute idée de développer un quartier un écoquartier, avec un habitat qui puisse avoir une réflexion forte sur les questions environnementales. Alors, nous avons déjà débattu de cette question. Vous nous avez dit que les bobos, etc. Bon, on connaît bien la rhétorique. Simplement, je pense que oui, la ville de Belfort pouvait peut-être proposer, notamment parce qu'elle a de nombreux projets d'urbanisation, de grands projets d'urbanisation, je pense aussi au site de l'hôpital, pour pouvoir avoir une approche dans ce sens. Le commissaire enquêteur le regrette, des habitants l'ont également regretté, donc c'est un élément pour nous qui conforte notre positionnement. Sur ce projet, nous nous abstiendrons compte tenu du fait que vous proposez de rejeter, Monsieur le maire, les autres préconisations du commissaire enquêteur. Donc, à ce stade, nous nous abstenons. Je voulais enfin terminer par une remarque. Et je vous le dis de façon un peu solennelle et tout à fait décontractée, Monsieur le maire. Vous ne pouvez pas jouer avec le règlement intérieur quand vous le souhaitez. Le règlement intérieur a été adopté ici collectivement par l'ensemble des élus. Il prévoit d'abord une prise de parole pour chaque conseiller municipal. Que vous nous refusiez de nous donner la parole, on veut bien l'entendre, même si vous pourriez, en effet, vous le faites d'ailleurs parfois quand c'est moins polémique. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, vous ne pouvez pas dire, ça y est, je me suis exprimée, donc plus personne ne s'exprime derrière moi. Deuxième point sur le règlement intérieur. Je suis très heureuse que Claudine Voynier ait pu faire son intervention. Par contre, j'aimerais que les citoyens de cette ville soient traités de façon équitable. Là aussi, l'intervention du public ne peut pas être à géométrie variable, monsieur le maire. Vous avez décidé, lors du dernier conseil municipal, de mettre en fin de conseil de quartier l'ensemble des interventions du public. Vous l'avez fait d'ailleurs en séance, sans même prendre la précaution d'appeler les élus d'opposition pour leur soumettre cette idée. Vous l'avez fait en contradiction totale, encore une fois, avec le règlement intérieur, puisque le règlement intérieur prévoit une prise de parole du public. Et donc, moi, je suis très heureuse que Claudine Voynier puisse s'exprimer, mais j'aurais aimé aussi que le public puisse s'exprimer en début de séance.
Merci, Madame Chabert. D'autres interventions ? Pas d'autres interventions. Je me permets quand même de vous rappeler l'article 2 que votre majorité a fait voter et que j'ai conservé intact. Or, évidemment, quand vous étiez dans la majorité, vous appliquiez ce règlement et vous le trouviez très bien. J'ai repris ce que vous avez fait pendant des années. L'opposition s'exprime, tout le monde peut s'exprimer, mais une fois que tout le monde s'est exprimé, c'est le maire qui conclut. Ça fait 40 ans que c'est comme ça, depuis les temps immémoriaux. Donc je reprends ce qui a été fait par mes prédécesseurs. Ensuite, je vous rappelle l'article 2, au cas où vous ne l'auriez pas en tête, parce que vous avez des fois des trous de mémoire, j'y reviendrai tout à l'heure. Article 2, que vous avez fait avec vos amis, comment vous dites, vos camarades, voter le maire avant l'ouverture de la séance ou lors d'une suspension de séance, peut donner la parole à des citoyens belfortains qui le demandent. Madame Voynier est venue me voir en me le disant, donc je peux donner la parole, ce que j'ai fait, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, Madame Chabert, vous vous êtes exprimée très longuement. Je ne vous ai pas contingenté. Certains disent trop longuement, mais il faut que la démocratie s'exprime. Puis je pense que plus vous parlez, mieux c'est pour nous, Madame Chabert. Donc je pense qu'il faut vous laisser parler longtemps. Je pense que c'est très bien. Vous nous parlez de l'histoire de la laiterie, mais c'est fantastique. Vous nous dites que nous avons approuvé un projet. Nous ne pouvions pas approuver un projet puisqu'il n'y avait pas eu la déclaration d'utilité publique. Vous dites, c'est merveilleux, il y a une étude qui est faite, on s'en félicite. Ben, pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir ? Le projet que j'ai présenté en conseil de quartier, j'ai fait venir l'architecte, j'ai fait venir l'investisseur, c'est le projet qu'on a trouvé dans les tiroirs de l'ancienne municipalité. Et moi, je l'ai dit très clairement, si j'avais été maire au moment où ce terrain avait été vendu, je l'aurais préempté. Parce qu'en le préemptant, j'aurais choisi de faire ce que je voulais. Il se trouve que vous avez choisi de laisser la vente se faire à un investisseur privé, qui a tout à fait le droit d'acheter, il n'y a pas eu de préemption de la mairie. Mais qui était là quand la vente s'est faite ? Ce n'était pas Damien Meslot, c'était à Sertien Étienne Boutzbach. Il a fait le choix de ne pas préempter. C'est un choix politique. Mais quand on fait ce choix politique, ça implique un certain nombre de choses après. Eh bien là, je suis désolé, mais en faisant cela, vous avez laissé un investisseur privé présenter des projets. Quand j'ai vu ce projet, j'ai demandé qu'on fasse venir l'architecte et tout. Je l'ai présenté en conseil de quartier. Un certain nombre de gens, et Mme Voynier était là, il y avait d'autres habitants, ont trouvé que ce projet de R+5 était trop élevé. Nous avons décidé, dans la modification du PLU, de limiter à R+3. Nous avons fait des réunions. Là, nous avons lancé l'enquête d'utilité publique. Nous avons décidé de refaire une étude. Nous allons, après l'étude, transmettre les résultats à l'ensemble de la population. Jamais sur un projet, vous n'aviez écrit à tous les habitants pour dire « Voilà, sur ce projet qui est discuté, il y a une enquête d'utilité publique, voilà les endroits où ça se fait, voilà. » Mais vous aviez le pouvoir, vous pouviez préempter, vous pouviez faire l'étude, vous n'aviez rien fait, vous aviez un dossier planqué que vous vouliez sortir après les élections. Il se trouve que les électeurs, dans leur grande sagesse, ne vous ont pas fait confiance et donc le projet qui était votre projet, qui était le projet que vous souteniez, était un projet qui n'allait pas à la majorité de la population. Moi, je présente les projets, on revient dessus. Et vous me dites, c'est fantastique, vous me dites, vous revenez sur ce projet que vous avez voulu. Mais je n'ai pas voulu ce projet, je n'ai pas pu le faire voter. Puis de toute façon, pour faire voter le projet, il aurait fallu qu'il y ait l'enquête d'utilité publique qui n'était pas faite. Donc, vous mentez, mais vous mentez tellement mal que vous vous prenez les pieds dans le tapis. Donc, ce projet, c'était le vôtre, il était mauvais et vous essayez de nous le faire prendre pour nous, mais ce n'était pas nous, nous n'en voulions pas de ce projet. Et maintenant, il y a une étude, nous donnerons les résultats de l'étude, ce sera très clair. Alors, sur le Mont, là encore, c'est fantastique. Vous nous dites pourquoi vous revenez sur l'écoquartier ? On revient sur l'écoquartier parce que personne n'en veut. Vos cages à lapins de quelques mètres carrés ou 80 où vous ouvrez la fenêtre, vous tombez, vous pouvez prendre le Ricard avec le voisin ou vous pouvez supporter les fumées du barbecue du voisin. Personne n'en veut. Les gens veulent avoir un terrain, une maison et puis pouvoir être chez eux. Eh bien oui, nous avons abandonné ce projet dont personne ne voulait. Vous savez, faire le bonheur des gens contre leur volonté. On a connu ça dans certains pays, ça s'appelait l'Union soviétique. Le mur est tombé, c'était en 1989. Je crois que le monde a changé. Il faut s'adapter au monde du 21e siècle et pas rester au temps de Zola et de l'Assommoir. Ces temps-là sont passés, Madame Jabert. Donc voilà, on a ce PLU qui tient compte d'un certain nombre de modifications. Belfort bouge, Belfort est en train de se réurbaniser. Nous répondons à la demande qui se fait sentir. Nous répondons aux demandes des gens. Il y a un besoin fort pour des maisons, il y a un besoin fort pour des appartements de qualité. Nous allons dans le sens de ce que demande la population et nous allons continuer. Les 500 emplois qui vont être créés à G, les gens vont vouloir se loger. Ils vont vouloir se loger dans des appartements confortables, BBC, spacieux, dans des maisons qui seront agréables. Voilà, donc nous répondons à la demande. Sur la laiterie, nous continuons l'étude, nous allons rendre publique l'étude dès qu'elle sera terminée, nous allons revoir la population, nous lui montrerons et nous travaillons comme ça. Et revenir 3 ou 4 fois devant la population pour modifier, pour changer, eh bien oui, il y a des fois des choses où on fait des propositions qui ne sont pas adaptées, puis on revient dessus. C'est comme le parking, eh bien, puisque nous avons des fortes baisses de dotation, eh bien on modifie les choses, il faut s'adapter sans arrêt, et puis pas rester bêtement arc-bouté sur des choses. Voilà, tout le monde s'est exprimé, je vais donc mettre maintenant ce rapport aux voix, vous pouvez ouvrir le vote. Ça y est, vous pouvez voter. Voilà, voilà, tout le monde a voté. Le vote est clos. Alors, 36 oui, 2 non, 6 abstentions. La parole est à Yves Vola pour le rapport 14.
Merci, monsieur le maire. Transport et traitement des déchets sableux de la CAB de la ville de Belfort, année 2016-2018. Reconduction d'un groupement de commandes avec la CAB et autorisation de traiter. La CAB et la ville de Belfort produisent annuellement entre 500 et 1600 tonnes de sable de curage et de balayage. La CAB doit par ailleurs prévoir une opération ponctuelle de curage d'un dallot destiné à 1000 tonnes de sable. Les collectivités ne disposant pas d'unité de traitement des sables, elles font appel à un prestataire. Le montant de la commande variant sur 3 ans de 105 000 à 450 400 euros nécessite recours à un marché lancé sur appel d'offres ouvert. Pour simplifier la gestion de ce marché commun aux deux collectivités et coordonner la commande, un groupement de commandes a été constitué en 2002. Dans ce cadre, le présent rapport a pour objet de reconduire le regroupement de commandes constitué entre la CAB et la ville de Belfort, d'autoriser le président de la CAB à signer les marchés à intervenir au nom du groupement de commandes. Un rapport identique sera présenté dans les mêmes termes au conseil communautaire pour autoriser le président à reconduire le groupement et à signer les marchés à intervenir. Il est demandé au conseil municipal de reconduire le groupement de commandes créé par convention du 19 juin 2002 avec la CAB pour assurer le service de transport et de traitement des sables des collectivités adhérentes au dit groupement, d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 4 afférent à la dite convention. Les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération pluriannuelle feront l'objet d'inscriptions au budget primitif 2016-2018. Voilà, M. le maire.
Merci. Des questions Interrogations ? Non ? Eh bien, je vais mettre le rapport aux voix. Vous pouvez ouvrir le vote, s'il vous plaît. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Le vote est clos. Alors, 43 oui, une abstention, Monsieur Archambault. Rapport numéro 15. La parole est à Marie Rochette.
Merci, Monsieur le maire. Le conseil municipal a validé le 2 juillet dernier le projet de modernisation du parcours de découverte de la citadelle et le réaménagement du grand souterrain. Le coût est estimé à 150 000 euros TTC. Le conseil régional a notifié l'octroi d'une subvention à hauteur de 40% du coût hors taxe du projet, soit 50 000 euros. Celui-ci est orienté sur les nouvelles technologies, notamment la réalité augmentée. Cette opération pourrait aussi être subventionnée par des crédits du FEDER, Fonds européen de développement régional, au titre de l'axe 2, promouvoir l'utilisation intelligente des TIC, technologies de l'information et de la communication, en faveur de la société et de l'économie, du programme opérationnel Franche-Comté pour un montant de 50 000 euros, auxquels peuvent s'ajouter de la prise en charge de dépenses de communication et de personnel nécessaires au fonctionnement du projet jusqu'à 18 mois à compter du lancement opérationnel pour une participation de 29 600 euros, soit 79 600 euros de participation du FEDER. Donc, il est demandé au Conseil municipal de valider les présentes dispositions, d'autoriser M. le maire à solliciter l'aide du FEDER et à signer tout acte découlant de cette décision. Je vous remercie.
Merci. Des questions ? Ah, pardon, Madame Chiliot, excusez-moi, allez-y.
Oui, Monsieur le maire. En lisant ce rapport, on s'est aperçu avec le groupe du MHPS qu'il n'y a aucune, signalétique, ni on ne parle pas du tout de ce parcours qui va être modernisé concernant les personnes touchées par le handicap. Et on se pose la question si on n'a pas été un petit peu, oubliés dans votre programme.
En effet, on étudie le label tourisme et handicap à propos de ce projet.
Pourquoi il n'est pas intégré dans le rapport ?
On aurait pu, tout à fait.
Est-ce que c'est possible de le rajouter, s'il
Bien
vous
sûr.
Plaît ? Merci.
Je pense qu'on peut le rajouter, Marie.
Oui, hein ?
On va retenir votre proposition, Madame Chiliot. Trois voix. Le vote est ouvert. Il est ouvert, vous pouvez voter. Voilà, le vote est clos. Alors, 43 oui, une abstention, Monsieur Archambault. Rapport numéro 16.
Donc, nous signons annuellement une convention de partenariat culturel avec Montbéliard sur quelques axes de collaboration en matière de communication, mise à disposition de mobilier urbain d'information pour un maximum de 2 campagnes promotionnelles, en art plastique par des financements au bénéfice de l'école d'art Jaco de Belfort et du Centre régional d'art contemporain de Montbéliard. À propos de la diffusion du spectacle vivant, avec un partenariat entre les deux scènes nationales, le Théâtre Granit et ma scène. En termes de culture scientifique aussi et technique, via le pavillon des sciences, fête de la science en alternance à Belfort et à Montbéliard. Et à propos d'expositions, de musées et événements, la convention formalise le partenariat pour 2015. Je vous remercie.
Oui, merci. Donc, s'il y a des questions, il n'y en a pas, on va mettre aux voix. Vous pouvez ouvrir le vote. Le vote est ouvert, vous pouvez voter. Le vote est clos. 42 oui, une abstention, une non-participation au vote. Christiane, voilà. Rapport 17, la parole est à Marie Rochette.
Donc c'est à propos des restaurations monuments historiques 2016, travaux d'entretien et d'insertion. On entend par travaux d'insertion l'emploi de personnes en insertion. Donc pour les travaux d'entretien, après la terrasse du Lion en 2015, les travaux d'entretien 2016 porteront sur les ingris de la tour 46, avec au préalable un diagnostic et le traitement des parties de façade qui souffrent d'infiltration, notamment côté préfecture. Il s'agit de mesures conservatoires à traiter prioritairement pour un montant prévisionnel de 70 000 euros TTC avec sollicitation du Conseil régional pour une subvention de 11 700 euros, 20% du montant hors taxe, et de la DRAC pour 23 400 euros, 40% du montant hors taxe. Donc ces travaux poursuivront ceux réalisés sur le parking Boer en 2015, sur la lunette 18 sur 3 années. La première tranche sera réalisée en 2016 pour un coût de 77 000 euros. TTC, avec une demande de subvention au Conseil régional de 12 833 euros et à la DRAC de 25 666 euros. Donc, je demande au Conseil municipal d'approuver ce programme 2016 de restauration et d'entretien des monuments historiques et d'autoriser M. le maire à solliciter auprès de l'État et du Conseil régional de Franche-Comté l'attribution des subventions nécessaires à la réalisation de ces opérations.
Oh, pardon. Excuse-moi, j'ai trompé de bouton là. C'était pas un rappel à l'ordre, hein, mes excuses. Très bien, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations ? Non, il n'y en a pas, mais je vais mettre au vote. Vous pouvez ouvrir le vote. Vous pouvez voter. Voilà, le vote est clos. Alors, 43 oui, une abstention, Monsieur Archambault. Alors, le rapport numéro 18, la parole est à Marie Rochette, toujours.
Donc, c'est à propos de l'acquisition du lot de 8 dessins de Jean Bercier. Donc, cette acquisition a fait l'objet d'une présentation globale détaillée dans un rapport du Conseil municipal le 2 avril 2015. Ces dessins n'étant pas susceptibles d'être soutenus par une subvention en raison de leur coût unitaire, le plan de financement joint au rapport ne faisait pas apparaître de subvention de l'État et du Conseil régional les concernant. Le Fonds régional d'acquisition pour les musées, qui s'est réuni à Besançon le 30 septembre, a informé la ville que ces dessins, parce qu'ils constituent un ensemble, peuvent néanmoins être subventionnés à parité par l'État et la région à hauteur de 50% de leur prix hors taxe, 1 500 euros, soit respectivement 375 euros pour l'État et la même somme pour la région. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil régional de Franche-Comté pour le versement de cette subvention. Je vous remercie.
Merci. Des questions, des interrogations ? Non ? Je vais mettre aux voix. Vous pouvez lancer l'opération de vote. Le vote est ouvert, vous pouvez voter. Merci. Le vote est clos. 42 oui, 2 abstentions, M. Archambault et M. Schmitt. Alors, rapport numéro 19, la parole est à Marie Rochette.
Alors, c'est à propos de la programmation des expositions 2016 dans les musées. La programmation 2016 des expositions des musées de Belfort tient compte des orientations globales de la politique municipale, des possibilités budgétaires et reflète les opportunités liées à l'actualité culturelle. Elle se décline autour de 3 expositions qui visent à attirer un public le plus large possible. La première exposition, Orbi et Urbex, est consacrée à un photographe belfortin, Benoît Didier, qui s'inscrit dans un mouvement de l'art qui s'appelle l'urbex, dont les tenants mettent en lumière des lieux d'une époque révolue et tombée en déshérence. Elle se déroulera du vendredi 4 mars au lundi 16 mai 2016, tour 46, et s'inscrit dans la programmation culturelle 2016 autour des 80 ans des congés payés. La deuxième, qui est aussi la principale exposition du 24 juin au 3 octobre, est la rétrospective consacrée à l'œuvre de Eugène de Kermadec. Elle répond au vœu de Maurice Jardot, qui n'avait pas eu le temps de mener à bien ce travail d'envergure concernant cet artiste présent dans les plus grandes collections en Europe et aux États-Unis. La dernière exposition, Brut Data ou les nouveaux territoires de l'art brut, en partenariat avec l'espace multimédia et de culture numérique Gantner, se propose d'explorer l'art brut dans ces nouveaux territoires qui lui ont souvent été opposés à tort, à savoir les nouvelles technologies, du 28 octobre 2016 au 16 janvier 2017. Un budget de 120 570 euros prévu au BP 2016 et la Direction régionale des affaires culturelles et le Conseil régional de Franche-Comté sont susceptibles d'accorder une aide financière au titre de l'année 2016 pour ce programme d'exposition temporaire. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver cette programmation et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter le versement de ces subventions auprès de la DRAC et du Conseil régional, la ville s'engageant à prendre en charge les financements non acquis.
Merci. Des questions? Non? Eh bien, on va ouvrir le vote. Voilà, vous pouvez voter. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Alors, 43 oui, une abstention, Monsieur Archambault. Rapport numéro 20. La parole est à Monique Monod.
Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du rapport numéro 20, programmation des projets d'action éducative pour l'année 2015-2016. Dans le cadre de son orientation visant à accompagner les projets et démarches engagés par l'éducation nationale, la ville de Belfort apporte son concours aux écoles maternelles et élémentaires dans le cadre des projets d'action éducative des établissements. Il est demandé au conseil municipal de valider la programmation 2015-2016 des projets d'action éducative pour les écoles maternelles et primaires.
Merci. Des questions, des interrogations, Mme Chabert?
Oui, juste une petite question sur l'école Pergaud, où je siège pour la ville, puisque au conseil d'école, nous avons donc discuté de ces PAE. Je m'étonnais, en fait, parce que la somme qui est annoncée n'est pas celle qu'on m'avait donnée. Au niveau de l'élémentaire, hein, je ne parle pas de la maternelle. 10 projets, donc il y a bien 10 projets avec une classe supplémentaire par rapport à l'année dernière, mais la somme qui est le financement qui était sollicité était en hauteur de 11 000 euros et pas 19 000 euros. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur et ce qui revient, ce qui peut permettre peut-être de revoir l'attribution, puisqu'en effet, c'est 11 000 euros qui sont demandés pour 10 projets. Et non pas 19 000 euros. L'année dernière, pour mémoire, ils avaient donc demandé, ils avaient 9 projets pour une demande à hauteur de 9 000 euros. Ils avaient obtenu 4 830 euros. Je m'excuse de ce petit détail concernant l'école, mais je pense que c'est important d'avoir des retours de réponse, notamment sur la façon dont ont été prises les décisions qui concernent les arbitrages de ces PAE. Merci.
Monique?
Oui, on a étudié, il y avait des budgets non équilibrés, parce que je rappelle que ces PAE, on n'a absolument pas la somme donnée par l'éducation nationale. On doit aider à moins de 50% ces projets. On n'a absolument aucun détail des sommes données. Alors en général, on a essayé de voir quels étaient les budgets non équilibrés. Il y a parfois 42 euros qui émanent de la coopérative. C'est absolument pas possible. Quand on a un projet de 1000 ou 2000 euros ou 1900 euros, qu'on donne à peine 45 euros comme participation de la coopérative. Il y a normalement la coopérative doit être partie intégrante et puis d'autres actions, peut-être des parents, pour équilibrer le budget. Parfois, ces budgets ne sont absolument pas équilibrés. Donc, ce n'est pas à la commune d'équilibrer, de donner la somme totale.
Merci. Très bien, ben je vais mettre le rapport aux voix. On va pouvoir ouvrir le vote. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Le vote est clos. Alors, 36 oui, 8 abstentions. Très bien. Rapport 21, la parole est à Marion Vallée.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Donc, il s'agit du recensement de la population 2016 et le barème de rémunération des agents recenseurs et contrôleurs. Donc, c'est un rapport récurrent et il vous est demandé de l'approuver, enfin d'approuver ces dispositions prévues pour le recensement 2016 et d'inscrire les budgets au chapitre correspondant. Je vous remercie.
Merci. Des questions, des interrogations ? Non ? Ben, on peut mettre aux voix. Je demande d'ouvrir le vote. Vous pouvez voter. Voilà, tout le monde a voté. Le vote est clos. Alors, 43 oui, une abstention, monsieur Archambault. Rapport numéro 22, la parole est à Yann Boucard.
Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, lors du conseil municipal du 17 septembre dernier, nous avions instauré une tarification pour les activités du service jeunesse. Bien que répondant aux préconisations de la CAF et de la DSPP, il s'avère que ce système était contraignant. Fort des remarques et des questionnements que nous avons pu observer sur le terrain, nous proposons de transformer l'adhésion trimestrielle en adhésion annuelle pour faire des économies aux familles et de supprimer le coût supplémentaire complémentaire trimestriel en fonction du nombre de séances par semaine. Il est donc demandé au conseil municipal de remplacer la tarification des activités périscolaires du service jeunesse présentée le 17 septembre dernier par ces nouvelles dispositions et de laisser inchangée la tarification des activités sur le temps extrascolaire.
Merci. Des questions ? Non ? Mais je vais mettre le rapport aux voix. On peut ouvrir le vote ? C'est ouvert. Vous pouvez voter. Voilà. Le vote est clos. Alors, 42 oui et 2 abstentions, monsieur Guémazy, monsieur Archambault. Ah, d'accord, donc monsieur Guémazy souhaite voter pour, donc il y aura un pour de plus et monsieur Archambault qui restera tout seul. Rapport numéro 23. Rapport numéro 23. Oh, mais n'y voyez pas malice. Rapport numéro 23, la parole est à Sébastien Vivot.
Oui, donc je vous présente la. Vous avez eu donc dans le rapport la décision modificative numéro 3 de l'exercice 2015 du budget principal de la ville. Il consiste en deux ajustements. Le premier sur le fonctionnement, c'est de l'affectation de crédits qui étaient sur des enveloppes affectées. Donc ces opérations budgétairement sont neutres en termes de soldes. Et pour les chapitres d'investissement, nous avons procédé à une mise à jour des programmes en APCP, que ce soit sur des montants en termes de révision ou sur des calendriers d'échéance sur les différentes opérations. Donc il est à noter que la nouvelle répartition des crédits de paiement sur ces programmes en APCP en 2015 diminue les dépenses d'équipement de 1 239 000 euros. Et en contrepartie, donc le recours à l'emprunt sera réduit de la même somme. Donc il est demandé au conseil municipal d'adopter les modifications et ajustements budgétaires de la décision modificative numéro 3 de l'exercice 2015 du budget principal, d'adopter l'affectation et le versement des subventions, d'approuver les ajustements opérés sur les montants des autorisations de programme et sur la nouvelle répartition des crédits de paiement pour les programmes suivis en APCP, de procéder à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du conseil municipal, soit au sein de leur bureau, soit en qualité de salarié, et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions, à intervenir avec les associations concernées, conformément à la loi du 12 avril 2000, précisée par le décret 2011-495 du 6 juin 2011.
Merci. Des questions, des interrogations ? Non ? Eh bien, je vais mettre cette décision modificative aux voix. On peut ouvrir le vote, s'il vous plaît. Le vote est ouvert, vous pouvez voter. Voilà. Le vote est clos. Alors, 36 oui, 2 non, 5 abstentions et 1 non-participation au vote. Rapport numéro 24. La parole est à Pierre-Jérôme Collard.
Merci, monsieur le maire. Dans un souci de bonne gestion, il vous est proposé aujourd'hui d'étudier la grille tarifaire des stades et gymnases à compter du 1er janvier 2016 pour qu'elle soit parfaitement adaptée en fait, au type d'équipement et aux demandes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, vous avez une proposition sur 5 grilles de tarification et donc il vous est demandé de valider la grille tarifaire jointe en annexe applicable au 1er janvier 2016, grille qui nous permettrait à périmètre constant de récupérer environ 100 000 euros de recettes.
Est-ce qu'il y a des demandes? Non. Alors, Sébastien Vivant.
Oui, moi je voulais remercier Pierre Jérôme pour ce rapport. Non seulement il va rétablir une certaine équité entre les collèges et les lycées. Je rappelle que jusqu'à présent, les collèges participaient aux dépenses de fonctionnement de nos équipements sportifs, alors que les lycées ne payaient pas jusqu'à aujourd'hui, alors qu'ils percevaient de la région des fonds pour financer l'utilisation de ces équipements. Une bonne gestion budgétaire, c'est à la fois la maîtriser ses dépenses, mais bien sûr aussi surveiller ses recettes.
Merci, très bien. On va mettre ce rapport aux voix. On peut ouvrir le vote. Vote est ouvert, vous pouvez voter. Le vote est clos. Alors, 37 oui, 1 non, 1 abstention, 5 non-participation au vote. Rapport numéro 25. La parole est toujours à Pierre-Jérôme Collard.
Merci, monsieur le maire. Juste un rapport technique. Il s'agit simplement de renouveler une convention entre l'association Profession Sport et la ville pour la mise à disposition d'éducateurs sportifs. Donc, il est demandé au conseil d'autoriser la reconduction de cette convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention qui régit les modalités d'emploi et de rémunération des personnes mises à disposition.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport technique? Non. Eh bien, on va mettre le rapport aux voix. On peut ouvrir le vote, si vous voulez bien. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Alors, 43 oui, 1 abstention. Rapport numéro 26. La parole est à Marion Vallée.
Il s'agit de la création de concessions perpétuelles à titre honorifique. Il vous est demandé de transformer en concession perpétuelle à titre honorifique et de manière gracieuse celle de Noël Lapostolé, Jean Leguet, Pierre Bonnef, Émile Géant et Jackie Drouet, d'accorder pour l'avenir une concession perpétuelle et de manière gracieuse aux anciens maires au cimetière de Brasse. Je vous remercie.
Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, monsieur Archambault.
Je suis défavorable à l'instauration du privilège pour ce qui concerne les maires dans le cadre d'une démarche systématique. Ce n'est pas quelque chose qui me semble normal dans une situation qui est la situation, une situation dans laquelle il n'y a pas de monarchie. Hein. Donc, voilà, si, pour ce qui est des concessions que vous souhaitez accorder aux tombes des anciens maires, j'y suis favorable. Voilà. Des maires déjà décédés. Voilà.
Alors, monsieur Archambault,
oui.
Je ne comptais enterrer personne, ni vous, ni aucun membre de l'opposition. Je voudrais les rassurer, vivant au cimetière. Je vous promets qu'au cimetière de Brasse, on n'a jamais enterré que des maires qui étaient décédés, des anciens maires qui étaient décédés. Je vous assure que ce ne sont pas des pratiques qui se sont passées à Belfort. Et j'accorde à mes prédécesseurs d'avoir procédé de la même façon. Je suis sûr que ni Jean-Pierre Chevènement, ni Étienne Boutzbach, ni Émile Géant, ni Pierre Dreyfus-Schmidt, ni tous ceux qui ont été cités, j'en oublierai automatiquement, je pense qu'ils ils n'ont jamais enterré d'anciens maires vivants au cimetière de Brasse. Donc, je tenais à vous apporter cette précision qui peut-être vous permettra de voter différemment, mais vous m'accorderez quand même, j'ai beaucoup de défauts, mais je n'avais jamais eu l'intention d'enterrer un ancien maire vivant. Bon, à part l'intervention de M. Archambault, M. Schmitt.
Moi, j'ai des difficultés à rire des interventions de M. Archambault. C'est risible, mais c'est quand même Front National ou un ancien Front National et il y a quand même un danger en France en ce moment. Excusez-moi.
Bon. Mais vous voyez, même M. Archambault a considéré que le Front National était un danger puisqu'il l'a quitté. Donc tout espoir est permis.
Il peut être il est peut-être pire que le Front National, hein.
Ah ben, vous nous avez dit que vous étiez plus Front National quand même, j'ai bien compris. Ah, ben alors, je ne dis pas de contre-vérité. Donc, donc j'ai le droit d'interpréter cela, puisque je m'exprime à titre personnel, je ne m'exprime pas pour vous. J'ai dit que même vous, vous aviez considéré que vous ne pouviez pas rester au Front National, vous avez souhaité quitter le Front National. Donc je dis, tout espoir est permis. Je veux dire, voilà. Donc bon, nous allons, je vais proposer de mettre au vote. Hein, chacun pourra voter comme il le souhaite, en précisant bien donc qu'il ne s'agit de n'enterrer que des anciens maires décédés. On peut ouvrir le vote. Vous pouvez voter. Le vote est clos. Alors, Marie-Hélène ? Donc, alors, Marie-Hélène voulait participer favorablement. Il y a eu d'autres erreurs. Et Emmanuel Fillonneau aussi. Madame Gidiot, vous vouliez ne pas participer. C'est bon, d'accord. Très bien. Eh bien, nous allons passer au rapport 27. Et la parole est à Delphine Mantré.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, c'est un rapport sur les relations internationales de la ville de Belfort pour faire le point sur les nouveaux partenariats, les nouvelles orientations prises par la nouvelle municipalité et tout ce qui a été progressivement mis en place depuis un an et demi, ainsi que les conditions de poursuite de l'ensemble des jumelages et des partenariats de coopération décentralisée. Donc, un nouveau partenariat avec Afula, une ville en Israël, sur les thématiques économiques, des thématiques de santé et une thématique culturelle également avec une coopération entre les deux conservatoires. Une redynamisation du jumelage avec Delémont en Suisse, dans le domaine de la culture, des sports, des grands événements, de la communication. On a la création d'un comité de pilotage mixte entre les deux villes qui se réunit une fois par trimestre. Et des coopérations nouvelles également en matière économique en faveur de la formation, de la santé, du développement de nos territoires en collaboration avec la CAB et la République et canton du Jura suisse. Poursuite des autres activités de jumelage et autres partenariats de coopération décentralisée. J'entends là le jumelage avec Leonberg en Allemagne, des échanges entre les services espaces verts, les échanges de pratiques et d'expériences entre élus et services, les échanges entre les écoles et associations de musique ou autres, échanges scolaires, les échanges entre une dizaine d'associations des deux villes. Le jumelage avec Stafford en Angleterre, qui sont des échanges entre municipalités très limités pour le moment. Le jumelage est essentiellement animé par les deux associations amies de Stafford et de Friends of Belfort. Le jumelage avec Tanguin Dassouri au Burkina Faso, donc qui est un financement ciblé d'une action éducative majeure sur l'école du village de Bazoulé, devenue une école maternelle. Et un soutien éducatif qui pourrait évoluer vers un nouveau centre de formation. Mais on est en attente notamment des élections municipales du premier semestre 2016 qui auraient lieu normalement fin janvier. Les coopérations en Palestine. Donc, il y a eu une mission en Palestine en novembre 2014 qui nous a permis de rencontrer nos partenaires sur place. Donc la poursuite des coopérations culturelles dans le domaine musical notamment à travers un partenariat direct avec le conservatoire Édouard Saïd. Et la poursuite de soutien aux activités de l'association Hébron France. Les coopérations dans le Maghreb, qui sont l'Algérie et le Maroc, ces partenariats de coopération décentralisés en Algérie et au Maroc sont actuellement en sommeil pour diverses raisons. Et il est difficile de reprendre dans l'immédiat en raison de contextes locaux et nationaux. Les actions nouvelles en matière d'éducation, au développement et à l'ouverture au monde dans les écoles et centres de loisirs avec la direction de l'éducation notamment, grâce aux échanges permanents impliquant le conservatoire et pendant la semaine de la solidarité internationale. limitation des participations au réseau de coopération. Donc, on a pris la décision d'adhérer uniquement au CERCOP Franche-Comté et de ne plus être adhérent pour l'année 2016 à Cité Unifrance et au RCDP. Voilà pour ce rapport.
Merci. S'il y a des remarques, oui, Madame Chabert.
Oui, vous connaissez mon attachement aux politiques de relations internationales des collectivités locales, parce qu'elles sont en effet importantes dans la relation que nous pouvons tisser de collectivité à collectivité, en parallèle avec les relations bilatérales de nos États, avec des collectivités qui souvent sont dans des moments de développement qui nécessitent une expertise, une aide, qui n'est pas d'ailleurs financière comme certains peuvent le dire parfois. L'expertise des agents des collectivités est tout à fait intéressante pour ces collectivités qui n'ont pas ni l'organisation ni les compétences en interne. Donc, je suis, moi, favorable à cette coopération internationale. Je voulais juste regretter deux choses. D'abord, je ne vois pas dans votre rapport, Madame l'adjointe, la coopération que nous avions développée avec le camp de réfugiés à Jérusalem-Est, le camp de Shuafat, l'école de filles de Shuafat. Vous savez que les populations palestiniennes qui sont aujourd'hui expulsées de Jérusalem-Est dans des politiques que je ne détaillerai pas ici, mais que tout le monde connaît, se retrouvent ensuite entassées dans des camps de réfugiés. Le camp de Shuafat en est un bel exemple. C'est une espèce de poudrière explosive où les populations sont entassées avec très peu de services publics. Les écoles de l'UNRWA, gérées par l'UNRWA, sont débordées. Il y a différents cycles de formation sur une journée, tellement il y a peu de places et beaucoup d'enfants. Et ce que nous avions remarqué avec d'ailleurs le consulat de France à Jérusalem, puisque c'était lui qui nous avait alerté sur cette situation éducative explosive, puisque l'UNRWA n'arrivait pas à faire face. Il donne évidemment des cours, ils éduquent les enfants, mais il n'y a pas du tout de travail autour des loisirs. Et donc nous avions fait le choix d'ouvrir un cours de français, d'apprentissage du français, pas tant pour apprendre le français, mais pour permettre à ces enfants de revenir dans leur école au moment où ils n'ont pas classe, pour y faire autre chose que ce qu'ils peuvent faire à l'école, et surtout pour sortir des logements, puisqu'il y a un entassement très, très impressionnant. Et donc, nous avions eu l'occasion de rencontrer cette classe de jeunes filles qui nous avaient accueillies de façon très émouvante en chantant une chanson française, et elles s'exprimaient avec un français tout à fait intéressant. Et donc, je regrette, ou alors c'est un oubli, que ce partenariat ait disparu. Dernier point, vous faites le choix de ne plus adhérer au réseau en dehors du CERCOP. C'est votre liberté en effet. Je regrette juste, et je voulais le dire ici, parce que nous n'aurons pas l'occasion d'y revenir puisque vous abandonnez cela, c'est que Belfort a été à l'origine de la création du RCDP, le réseau de coopération des villes pour la Palestine. C'est un réseau tout à fait intéressant puisque, en effet, ça permet aux collectivités locales de sortir de leur relation bilatérale avec la collectivité qui est leur partenaires et d'avoir une réflexion d'ensemble, notamment sur les territoires, parce que je sais que par exemple Hébron est en partenariat avec plusieurs villes de France et c'est tout à fait intéressant de pouvoir échanger avec les autres villes pour ne pas être sur les mêmes thématiques par exemple. Je ne vois pas non plus de contenu dans votre coopération avec la ville d'Hébron. J'ai bien retenu cette nouvelle coopération avec le conservatoire Édouard Saïd. C'est une bonne chose parce que la musique est en effet un des facteurs facilitant ces relations. Le reste des dossiers, c'est en effet très compliqué. Je ne vous jetterai pas la pierre sur la difficulté de mener à bien ces dossiers, puisque j'ai eu pour ma part aussi quelques difficultés, notamment avec l'Algérie et le Maroc. Et vous l'avez dit, il y a des raisons qui nous échappent dans la relation entre ces pays et la France. Voilà, donc regretter d'abandonner le RCDP, c'est pas que du sentiment, c'est un signal politique fort. Alors c'est vrai que le RCDP a un positionnement très clair en matière sur la question de l'État palestinien, et je regrette que vous abandonniez ce réseau. Voilà.
Alors, effectivement, quelques éléments de réponse. Déjà, effectivement, dans notre choix de coopération et de relations internationales, on a On n'est pas sur des choix financiers, comme vous le disiez. On est vraiment sur des relations avec des personnes. Et toutes nos coopérations et nos échanges qu'on a pu avoir avec nos partenaires permettent de le montrer, parce qu'on est vraiment sur des échanges entre populations et cultures différentes. Pour ce qui est du camp de Chouafat, effectivement, on n'a pas décidé d'arrêter. C'est le camp de Chouafat et c'est là-bas où ils ne pouvaient plus continuer les cours de français pour des raisons de sécurité. Et donc, c'est pour ça que, de fait, ça s'est arrêté. Donc, pour l'instant, ça ne peut pas reprendre. Mais si ça doit reprendre un jour, on verra si, effectivement, on peut continuer ça. Mais du coup, on nous a orientés vers d'autres actions qui peuvent, effectivement, aider la population là-bas. Ensuite, pour ce qui est de CUF et du RCDP, on est aussi sur, pour le budget des relations internationales, sur des réflexions de diminution budgétaire. Donc c'est un choix, hein, c'est une diminution budgétaire de 8 000 euros. Et je pense que voilà, c'est un effort également financier que nous faisons sur le budget des relations internationales pour diverses raisons, aussi bien pour CUF qui est en train de fusionner et qui pour l'instant ne nous apporte pas forcément. Sur les relations avec la Palestine, on a des partenaires avec qui on peut correspondre en dehors du réseau et voilà, c'est des choix effectivement aussi bien politiques que financiers. Et pour ce qui est de la coopération d'Hébron, nous avons rencontré les élus en place à Hébron. Donc pour l'instant, on travaille sur quelque chose. Ça n'a pas abouti pour le moment à quelque chose de concret, mais on est en relation avec eux. Donc voilà, c'est en construction sur de nouveaux programmes.
Merci. Je propose de mettre le rapport aux voix. On peut ouvrir le vote. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Le vote est clos. Alors, 39 oui, 5 abstentions. Donc, rapport 28, la parole est à Delphine Montré.
Oui, le bilan de campagne du vote du budget participatif. Alors, je ne veux pas revenir trop longuement dessus parce que je pense que vous avez pu le découvrir également dans la presse. Donc, suite à la campagne d'appel à idées du budget participatif, les Belfortins ont pu, du 28 septembre au 13 novembre, voter pour un projet parmi les 17 qui avaient été retenus, qui ont été détaillés pendant les conseils de quartier de fin septembre jusqu'à début novembre. Au regard des résultats et des votes de 1230 Belfortins qui se sont exprimés, l'enveloppe de 130 000 euros pourra être financée sur les projets qui sont stipulés dans le rapport. Donc, 8 projets. Et le projet de créer une aire de jeu au Foratry, qui est arrivé en 6e position, mais qui faisait que l'enveloppe budgétaire n'était pas suffisante, a été quand même retenu pour être financé dans le droit commun, donc par un autre budget qui fait partie des projets retenus suite au vote des Belfortins. Donc il va être pris en compte dans la programmation de travaux 2016 et financé dans le droit commun. Pour pouvoir maintenant passer de l'idée à la réalisation du projet, donc ça va être un temps de concertation maintenant qui s'ouvre avec les différentes parties prenantes des projets et l'habitant notamment ayant proposé l'idée, les futurs usagers, les associations, et tout cela sera organisé pour permettre d'apporter des précisions et de finaliser le projet et pour également affiner le chiffrage. Donc les projets retenus seront mis en œuvre tout au long de l'année 2016. Voilà. Il demandait de...
Merci Delphine.
Valider.
Des questions, monsieur de Refuchuit ?
Oui, merci monsieur Meslot. Sur le principe de solliciter des habitants sur des projets qui peuvent concerner leur quartier, pas d'opposition et de remarque particulière. C'est vrai que c'est essentiel de favoriser le processus de concertation avec les habitants qui vivent ou travaillent dans leur quartier. Ce qui semble plus contestable dans la présentation du budget, dans le budget participatif, c'est la façon dont vous y êtes pris pour l'organiser. Je veux rappeler, parce que vous dites régulièrement que ça n'existait pas lors des précédents mandats, que le budget participatif existait bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, on l'appelait communément utilisation des enveloppes de conseils de quartier. Certes, il n'y avait pas de vote à l'échelle de la ville et d'urne pour déposer sa proposition, mais chaque président ou présidente de conseil de quartier, suite à des discussions avec les habitants, le bureau du conseil retenait les propositions qui apparaissaient les plus pertinentes en termes de demande des habitants, de faisabilité technique et financière et de cohérence avec les politiques municipales menées. Il est vrai, monsieur Messieurs, qu'il semblerait que ni vous-même, ni votre adjointe, madame Maîtré, n'ayez brillé par votre présence lors des conseils de quartier organisés durant le précédent mandat. Alors, vous qui pensez avoir inventé la poudre, ou plutôt les enveloppes dédiées à des projets de quartier, vous me permettrez de vous rappeler quelques-uns des projets co-construits avec les habitants sous l'ancien régime, comme vous aimez à le dire. Je cite, l'aire de jeu du square Saget, le parc de la maison de quartier du centre-ville, le square du Vélodrome, l'aire de jeu de la place des écoles, le square devant l'immeuble du 17 rue de la Paix, le square Ushuaïa aux résidences La Douce, l'aire de jeu de la place des écoles, le square Schmitt à la Pépinière, le cheminement cyclable entre la 5e DB et la rue de Marseille, l'aire de jeu et l'espace vert rue Allende, l'aire de jeu du square de la Roseraie, à titre d'exemple. Comme vous le voyez, du travail avait déjà été réalisé, et surtout dans tous les quartiers de Belfort. Au total, 13 grands projets initiés, co-instruits avec les habitants et financés dans le cadre d'un budget dédié de 72 000 euros chaque année. Comme vous le voyez, vous qui semblez découvrir la participation des Belfortins à des projets de quartier, ça fait longtemps que ça existait à Belfort. Alors aujourd'hui, vous avez fait le choix d'aller plus loin avec la mise en place d'une consultation des citoyens par l'intermédiaire de propositions déposées dans des urnes. Nous n'avons pas de difficulté là encore par rapport à ce mode de consultation, mais vous prenez quand même dans ce cadre-là le risque de frustrer une bonne partie des personnes qui ont déposé 124 projets dont vous n'avez retenu projets non retenus sur les 132 qui avaient été déposés. Alors, quant aux modalités d'organisation de cette consultation, c'est surtout là que le bât blesse, permettez-moi de douter quelque peu de leur impartialité, car cette consultation, c'est le moins qu'on puisse dire, n'aura pas été organisée dans une totale transparence. La désignation des représentants, d'ailleurs, au CA de la régie de quartier de la ville, dans lesquels des militants de votre parti ont obtenu des scores époustouflants, sont là pour le démontrer, s'il le fallait encore. Il existe pourtant un cadre juridique à disposition des municipalités qui permet de se prévaloir du label d'une vraie concertation, participation des citoyens, transparente, honnête et démocratique. Or, concernant les modalités de vote et de dépouillement de votre consultation, vous l'avez organisée sans aucune transparence. Idem pour la sélection en amont des projets. Les Belfortins n'y ont pas été, semble-t-il, associés. Ce que vous nous proposez donc aujourd'hui avec le budget participatif et dont vous faites grand cas correspond exactement à ce qui a été fait jusqu'à présent, mais avec de la com' en plus. Des urnes, des calicots, des panneaux dans le hall de la mairie, des articles dans Belfort Mag et sur le site de la ville, et j'en passe et des meilleurs. Pour résumer ma pensée à propos de ce budget, et comme pour beaucoup d'autres de vos projets, je dirais de la com, encore de la com et toujours de la com. Je vous remercie.
Merci. D'autres demandes de parole ? Il n'y a pas d'autres paroles. Bon, alors effectivement, vous êtes un bon lecteur. En brillant avocat que vous êtes, vous nous avez lu pour les projets le rapport du 7 juin 2013 de Madame Jabert. Alors effectivement, vous avez fait des projets. Vous avez fait 16 projets au cours du mandat pour 114 000 euros, projets qui ont été décidés par vos présidents de conseil de quartier que vous aviez nommés. Nous en avons fait 9 qui ont été votés par les habitants. C'est vrai que ce n'est plus la même méthode. Nous avons changé de méthode. Vous avez la vôtre, nous avons la nôtre. Comme vous l'avez dit, il y a l'ancien régime et puis il y a la République qui s'est instaurée. Que voulez-vous ? C'est comme ça, les républicains sont aux commandes de la mairie. Très bien, eh bien, je vais mettre le rapport aux voix. Je vous remercie pour vos interventions. Vous pouvez ouvrir le vote. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Le vote est clos. Alors, 37 oui, 2 non et 5 abstentions. Nous allons passer au rapport 29 et la parole est à Sébastien Vivot.
Merci, monsieur le maire. Donc, c'est un rapport qui nous demande de valider les tarifs municipaux pour 2016. Vous avez retrouvé sur votre table un nouveau document. Ne vous affolez pas, c'est quasiment le même que celui que vous avez eu, sauf en tête de la page 3, où il y a les quatre lignes qui ont été rajoutées suite à une réponse de marché sur les dispositifs de sécurité pour les manifestations dans les salles et sur le domaine public. Au moment où on a édité le rapport initial, on n'avait pas connaissance des réponses du marché. Elles sont arrivées entre-temps, c'est pour ça que vous avez le rapport complémentaire, mais il n'y a que ce chapitre-là, donc les cinq premières lignes de la page 3 qui ont changé, qui sont en additif.
Merci. Des questions, des demandes de précision? Non, il n'y en a pas. Je vais mettre le rapport aux voix. On peut ouvrir le vote. Le vote est ouvert, vous pouvez voter. Le vote est clos. Alors, donc 34 oui, 2 non, 7 abstentions et 1 non-participation. Vote, monsieur Fodo. Oui, vous vouliez voter pour. Ah, vous vouliez vous abstenir. Donc, est-ce qu'on peut corriger et prendre en compte l'abstention de monsieur Fodo? J'ai cru qu'il allait aller jusqu'à voter pour. Rapport numéro 30, le budget, qui est un rapport important de ce conseil. La parole est à Sébastien Vivot.
Merci, monsieur le maire. Alors, on devra avoir une petite présentation en même temps. Donc, chers collègues, comme habituellement, il est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget primitif de l'exercice de l'année 2016, dont le détail vous a été donné en annexe du présent rapport, et d'en voter les crédits par nature et par chapitre. Je vous propose, à travers la présentation qui va vous être faite sur les écrans, de mettre en avant les principaux points de ce budget. Donc, nous avons privilégié trois axes pour la construction de ce budget 2016. Un effort important a été mené pour réduire les charges à caractère général de 517 kg pour compenser la perte de dotation de l'État qui est estimée à moins 403 000 euros pour 2016. Aucun projet ou service à la population ne seront supprimés entre 2015 et 2016. Nous avons travaillé avec les services de la ville de manière à optimiser les enveloppes budgétaires. Un soutien à l'emploi en maintenant une évolution des dépenses de personnel à plus 3,23%. Trois nouveaux postes de policiers municipaux ont été budgétisés en 2016 pour renforcer notre politique en matière de sécurité. Le soutien aux associations a été conforté avec une augmentation de l'enveloppe annuelle allouée de plus 1,88%. La réforme de la DGF initiée par le gouvernement en 2015 a été reportée en 2016. Nous restons très vigilants quant aux impacts de celle-ci si elle venait à être appliquée dans les mêmes principes en 2017. En effet, cette réforme aurait un impact très néfaste pour les finances de la ville, en plus de la contribution au redressement des finances publiques. Selon les études effectuées par notre cabinet conseil, la perte serait de l'ordre de 700 000 euros à 1 million d'euros pour 2017, par une baisse combinée de la dotation de base et de la DSU, et notamment de sa composante DSU cible, qui ne progresserait à un rythme beaucoup moins soutenu que ces dernières années. Comme vous le voyez à l'écran, la construction du budget était faite avec un maintien des taux d'imposition à leur niveau actuel pour la taxe d'habitation, la taxe foncière bâtie et la taxe foncière du non bâti. La matrice suivante vous présente la structure du budget 2016. Bon, on s'excuse toujours de la croix au milieu de l'écran, mais on a essayé de faire la présentation de manière à lire les chiffres. Donc, vous voyez la structure du budget 2016 avec le fonctionnement, c'est les deux premières lignes, avec en colonne les dépenses et les recettes, et donc section de fonctionnement équilibrée à 71 659 318 euros, et une section d'investissement équilibrée à hauteur de 24 737 044 euros. Attardons-nous maintenant sur la section de fonctionnement. Le budget primitif 2016 se caractérise par un maintien de l'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui suivent l'inflation. Les recettes de fonctionnement, elles, stagnent, ce qui engendre une épargne nette nulle. Pour ce qui est des points clés des recettes de fonctionnement, la répartition des recettes de fonctionnement vous est présenté dans le petit diagramme en bas. Donc vous voyez, vous devriez pouvoir voir que le plus gros poste des recettes est celui des impôts et taxes pour 61%, suivant ensuite les dotations et subventions, postes subis et non choisis pour 33%, les produits des services pour 5%, les autres produits de gestion courante pour 1%. Les points clés des recettes de fonctionnement vous sont explicités dans la petite bulle en bleu en haut à gauche. Les recettes de fonctionnement progressent faiblement, on l'a dit tout à l'heure, de 0,1% par rapport au BP 2015. La progression des recettes fiscales ne permet pas d'absorber la baisse des dotations de l'État. La progression du chapitre des atténuations de charges s'explique par l'augmentation du nombre de contrats aidés pris partiellement par l'État. Les chapitres produits des services et autres produits de gestion courante ont été ajustés en fonction des réalisations enregistrées ces dernières années. Passons en revue maintenant les principaux postes de dépenses. Dans le même principe, vous avez le graphique qui vous présente en bas à gauche les répartitions des dépenses. Donc le plus gros poste est celui des charges de personnel pour 59%. Suivent ensuite les charges générales pour 22%, les autres charges de gestion courante pour 16% et les charges financières pour 3%. De la même manière, les points clés dans la bulle en haut à droite. Les dépenses de fonctionnement sont contenues à moins de 1%, soit plus 619 165 euros par rapport au BP 2015. Les charges de personnel évoluent de 3,23% de BP à BP. En se référant au budget total voté en 2015, qui intègre l'ajustement de 650 kilo-euros dont on a adopté la motion au budget supplémentaire, la progression des charges de personnel n'est que de 1,21%. La baisse des charges à caractère général est le résultat de la démarche engagée visant à adapter les moyens au plus juste des besoins en modifiant, lorsque cela a été rendu possible, l'approche de la commande publique. Les charges financières ont été ajustées pour tenir compte du niveau bas des taux d'intérêt constatés en 2015. Les autres charges de gestion courante intègrent les subventions aux associations qui progressent de 99 000 euros. L'histogramme à l'écran vous présente l'évolution de la dette. Passons maintenant à la section d'investissement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 24 747 044 euros, dont 7 102 000 euros au titre du remboursement de la dette. Les dépenses d'équipement sont provisionnées à hauteur de 17 635 044 euros. Elles sont réparties à 11 513 000 euros pour les dépenses du plan pluriannuel d'investissement, 2 700 000 euros dédiés à la maintenance, 1 936 144 euros pour les moyens des services, 332 900 euros pour les subventions d'équipement, qui comprennent l'aide aux façades notamment, et les subventions d'équipement aux associations, 1 153 000 euros d'acquisition divers pour les bâtiments. Le détail de tous ces chapitres vous a été donné en tableau dans votre rapport. Pour les recettes d'investissement, nous bénéficions d'un autofinancement de 7 100 000 euros. Nos recettes d'investissement s'établissent à 637 044 euros, répartis entre le FCTVA pour 2 629 872 euros, des subventions d'investissement reçues à hauteur de 1 123 625 euros, des produits de cession 2 590 000 euros, des amendes de police pour 847 000 euros, la taxe d'aménagement pour 100 000 euros et le complément par emprunt de 10 346 547 euros. Pour ce qui est de la gestion des projets en APCP, nous n'allons pas revenir trop dans le détail. Nous les avons vus tout à l'heure dans le rapport 23 relatif à la décision modificative numéro 3. Pour mémoire, nous avons le stade des Trois Chênes, la cathédrale Saint-Christophe pour la Tour Nord, les écoles élémentaires et maternelles du groupe scolaire Ruclin, la maison de quartier du centre-ville et les remparts. Je vous propose maintenant de passer au budget annexe du CFA. Le budget annexe du CFA 2016 s'équilibre à 2 267 017 euros en fonctionnement et à 391 422 euros en investissement. Il convient de noter que l'évolution des dépenses de fonctionnement est contenue à moins de 2% et que les recettes sont stables, y compris pour la participation de la ville qui avait fortement augmenté l'année dernière pour pallier au désengagement de la région. Les dépenses d'équipement sont inscrites à hauteur de 295 422 euros et permettent la réalisation des travaux suivants: l'acquisition de matériel informatique, l'achat de matériel pour l'apprentissage, l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et avec aussi de la mise en œuvre de sécurité, et la création d'un centre de ressources informatisées et d'un foyer d'apprentis. L'équilibre du budget se réalise hors ressources propres d'investissement par un emprunt de 180 077 euros. Pour le budget annexe de la cuisine centrale, il s'équilibre à 1 440 020 euros en fonctionnement et à 68 000 euros en investissement. Le poste de charge à caractère général diminue de 43 076 euros et le poste frais de personnel diminue, lui, de 24 530 euros. Ce budget est équilibré par une participation du budget principal de la ville à hauteur de 198 072 euros, équivalente à celle de 2015. Pour la section d'investissement, il est proposé 68 000 euros de dépenses d'investissement, dont 28 000 euros pour l'acquisition d'équipements. L'équilibre du budget se réalise hors ressources propres d'investissement par un emprunt de 15 030 euros. Voilà pour la présentation de ce rapport. Je tiens tout d'abord à remercier le service des finances, représenté ce soir par M. Beuchat, son directeur, pour la construction de ce rapport dans des délais contraints et dans un contexte particulièrement instable en termes de loi de finances. Mes remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des services de la ville de Belfort qui ont pris conscience des difficultés contextuelles et qui ont su répondre aux objectifs budgétaires qui leur ont été proposés. Donc je vous propose de prendre l'ensemble de vos interventions avant d'y répondre, à l'issue de quoi il sera demandé au conseil municipal d'adopter les taux d'imposition 2016 de 16,8% pour la taxe d'habitation, 19% pour la taxe foncier bâti, 82,83% pour le foncier non bâti, d'adopter le budget primitif 2016 tel qu'il vous a été présenté, de voter les crédits par nature et par chapitre, d'approuver la répartition des crédits de subvention dont la liste a été annexée au document budgétaire et d'autoriser M. le maire à signer les conventions à intervenir, le cas échéant, avec les associations bénéficiaires, de procéder à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du conseil municipal, soit au sein de leur CA, soit en qualité de salarié, d'autoriser le versement des cotisations aux organismes auxquels la ville est adhérente, selon les montants arrêtés par leurs organes délibérants, d'adopter le budget annexe du CFA et d'adopter enfin le budget annexe de la cuisine centrale. Je vous remercie pour votre attention.
Monsieur Faudeau.
Oui, monsieur le maire, monsieur l'adjoint, mes chers collègues, je vous dirai rapidement la perplexité qui a été la mienne en lisant ce budget. Le plus observable, c'est qu'il marque, de mon point de vue, un tournant dans le mandat et pour lequel vous faites en sorte qu'il se voit le moins possible, évidemment. Je dirais assez simplement, vous aviez trois séries de grandes orientations. Deux sont entièrement contredites par le budget que vous nous proposez ce soir. C'était vos engagements, ce n'était pas les miens. Mais je pense que pour les Belfortins, ça vaut largement le son de ce que va être, de ce que vont être les quatre années qui s'ouvrent devant nous. D'abord, vous annoncez sur les dépenses de fonctionnement un effort particulier pour les personnels. Je vous ai entendu pendant des mois, des années, considérer toujours que le personnel étant un coût, que les charges de personnel, les charges de fonctionnement de cette ville étaient beaucoup trop élevées. Je note que dans ce budget, vous proposez une augmentation des charges de personnel de 1,2 million d'euros, dont plus de la moitié, 600 000 euros, pour des personnels extérieurs. Je profite à ce sujet de vous demander de quoi il s'agit, à quoi correspondent ces 600 000 euros pour les personnels dits extérieurs. Alors évidemment, il y a des baisses sur les charges générales. J'ai aussi une question concrète sur une ligne en particulier. Sur le petit équipement, une baisse de 350 000 euros sur un budget en 2015 qui était de 500 000 euros. Je suis étonné par une telle différence. Sûrement est-elle justifiée, mais j'aimerais en connaître en fait la raison. Il y a eu une autre ligne dans le détail, je suis toujours sur le fonctionnement, sur les dépenses. C'est les taxes foncières qui sont doublées de 190 000 à 433 000. Là aussi, j'imagine qu'il y a une raison et j'aimerais connaître laquelle. Le grand point noir, d'une certaine manière, dans ce budget... Non, mais je vous en prie, hein. Je vous en prie. Le grand point noir dans ce budget, je dirais même... Je vous ai fait une remarque ? Ben voilà, donc merci, et je termine mon propos. Merci, monsieur le maire. Sur la dette, c'est le point noir du budget. Vous nous présentez, d'ailleurs très rapidement dans la présentation, l'endettement de cette ville jusqu'aux années 2014, c'est-à-dire jusqu'à la fin du précédent mandat. Bon, c'est très intéressant, c'est des chiffres qu'on avait déjà l'an dernier, qu'on avait même en fait l'année d'avant, hein, dans les prévisions de l'endettement 2014. Ce serait assez intéressant qu'on ait l'année 2015, mais qu'on ait aussi, tel que vous le projetez, l'année 2016, puisque c'est le budget 2016 que nous votons. Alors, en fouillant un peu dans les chiffres dont on dispose, on se rend compte d'une chose, c'est que vous désendettez la ville, de manière projetée pour 2016, de 7,1 millions d'euros. Le remboursement du capital, c'est 7,1 millions d'euros. Dans les recettes d'investissement, il y a des emprunts qui sont signifiés pour 10,3 millions d'euros. Donc ma question est simple, est-ce que cela signifie que vous augmentez l'endettement de la ville de 3,2 millions d'euros ? Si tel est le cas, alors si ce n'est pas le cas, c'est que j'ai l'esprit mal tourné, si tel est le cas, j'aimerais savoir comment vous vous arrangez avec les promesses que vous avez faites dès le début de ce mandat sur le désendettement de la ville, puisque que n'a-t-on entendu au sujet d'une ville surendettée ? D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dès l'entame de ce budget, dans le document qui nous est livré, il y a, du point de vue de l'endettement par habitant, une moyenne dans la population qui est un peu supérieure à la moyenne nationale, mais un peu supérieur à la moyenne nationale ne signifie pas le surendettement qu'à coup de grands mots, vous n'avez cessé d'expliquer lorsqu'il s'agissait de dire que cette ville était au bord de la faillite. Donc sur ces deux points qui ont toujours été, je dirais, le cœur de vos annonces en matière budgétaire, je suis très perplexe parce que j'ai le sentiment, parfois, que vous prenez les Belfortins pour des imbéciles. Réduire la dette, disiez-vous. Mais en fait, quand vous disiez réduire la dette, est-ce que cela en fait signifiait faire disparaître les chiffres ? Parce que c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, on est obligé d'essayer de reconstituer le solde de l'endettement. Sur les dépenses d'investissement, je ne suis pas un homme sectaire, vous le savez, mais... Vous maintenez le rythme d'investissement à un peu plus de 11 millions d'euros et je vous en donne acte. Je pense que pour la ville de Belfort, c'est une bonne nouvelle, même dans la difficulté d'être en capacité de tenir ce cap. Alors, j'évoquerai simplement une chose sur les investissements, c'est que il me semble, mais c'est là aussi une question de ma part, qu'il fut un temps où les dépenses de maintenance étaient plus élevées qu'ils ne le sont aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait eu, par exemple, un transfert de dépenses de maintenance dans la colonne dépenses d'investissement pour gonfler un peu la colonne d'investissement ? C'est une technique qui est bien connue, qui existe dans toutes les collectivités, et je vous soumets la question. J'ai une inquiétude plus précise que je me permets de relayer au moment du vote du budget de cette ville. Il y a eu des engagements pris par vous. Une école que je connais bien, c'est l'école élémentaire des Barres. Je ne la vois apparaître nulle part, ni en termes de projet de réhabilitation. Je parle des dépenses d'investissement, monsieur le maire. Je ne la vois apparaître ni dans les gros investissements en termes de réhabilitation, ni dans la partie, je dirais, amélioration, puisque vous aviez annoncé que si vous ne pouviez pas faire les investissements pour 2016 pour cette école en termes de réhabilitation, vous feriez à minima les investissements pour les vitres à l'arrière, le coup de peinture. Je peux terminer mon propos ? Merci. Vous l'aviez annoncé. Bah, écoutez, il se trouve... Madame, mais comme vous m'interrompez, je vous réponds d'emblée. J'imagine bien que vous le ferez. En tout état de cause, vous avez pris des engagements et il n'y a pas que moi qui les ai compris, puisque l'ensemble des parents d'élèves dans cette école ont compris que si la grande réhabilitation ne venait pas pour cette année, il y aurait à minima un certain nombre d'investissements. C'est intéressant. Le maire part pendant le vote du budget. On progresse dans cette ville. Il nous a fait le coup pendant le débat. Mais vous faites bien. Vous faites bien, nous ne nous en portons pas plus mal, vous inquiétez pas. Les mots me manquent. Et puis j'avais une question complémentaire sur les investissements. Pour la promenade de la Savoureuse, les 200 000 euros inscrits, s'agit-il d'études ? En conclusion, parce que je ne veux pas être trop long, bon, monsieur Picard, ça va aller. Bon, ben voilà, très bien.
Laissez monsieur Faudot terminer son intervention. Merci.
Le budget que vous nous proposez ce soir nous garantit d'une chose. Avec vous, on ne prend pas le grand large, on cabote. Pour ceux qui font de la voile, on fait du rase-caillou, on navigue à vue. Il n'y a pas de risque, pas de vision, pas de projet. La PPI, bon, c'est sûr que quand on abandonne des grands projets comme celui du parking souterrain, qui était le projet phare, emblématique, qui devait éclairer ce mandat, derrière, c'est vrai que nous sommes dans ce sentiment-là. Vous me répondrez, j'en suis sûr, que vous faites une gestion de bon père de famille. Eh bien, à la lecture attentive de votre budget, c'est, d'après moi, une gestion de bon pépère de famille. Je vous remercie.
D'autres interventions ? Madame Jabert.
Oui. Eh bien, c'est en effet très original. C'est la première fois dans cette instance. Nous avions déjà eu un exemple lors du débat d'orientation budgétaire. Donc, je vais faire là aussi mon intervention en l'absence du maire, mais ce n'est pas grave. Visiblement, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Alors, d'abord, je voulais faire une remarque sur le document. Une remarque... introductif sur le document lui-même qui est de plus en plus light et avec une absence de détails, je pense que c'est dommageable. Mais bon, c'est pas grave, ça nous fait aller regarder dans le détail ensuite. Il n'y a par exemple pas de présentation politique sur vos orientations, sur la feuille de route qui est la vôtre, qui peut éclairer le budget que vous nous donnez. On rentre d'emblée, dès la page 2, sur les chiffres du fonctionnement. C'est assez curieux comme façon de faire, mais bon, nous nous y adaptons. Alors moi, je voudrais aussi revenir sur les belles annonces diverses, variées. On en a eu pléthore. Cette belle communication, ces phrases choc qui étaient reprises dans la presse locale, parce que entre la réalité et la communication, eh bien, il y a un gouffre. Je vais reprendre quelques-uns de vos propos, monsieur le maire, lors d'une fameuse conférence de presse. Nous avons hérité d'une situation catastrophique. Un audit financier a été lancé. Pour la petite histoire, l'audit financier, nous l'attendons toujours. Nous en attendons les conclusions. On ne les a jamais eues. On nous disait aussi, j'ai découvert une dette faramineuse de 80 millions d'euros. Les caisses sont vides et la ville est en faillite. 83 millions d'euros que j'ai fait retomber à 71 millions quelques mois après. Voilà. Ça, c'est une intervention du Saint-Esprit où je ne m'y connais pas. Alors tout ça, c'est des contre-vérités. J'emploie le mot contre-vérité puisque le mot mensonge, visiblement, ne plaît pas à Monsieur le maire. C'est vrai qu'il a un intérêt, c'est qu'il est direct et assez clair. Alors je vais être gentille, on parlera de contre-vérité. Mais ça n'est pas à force de dire les contre-vérités que celles-ci deviennent des vérités. Et là, les chiffres sont parlants. Pour en revenir à votre politique qui est reflétée par votre budget présenté ce soir, nous avons eu l'occasion de le dire déjà lors du budget 2015, une politique à courte vue, celle d'un maire amateur, sans doute pas très éclairé. En effet, je rejoins là-dessus Bastien Faudeau. Un maire enfermé malheureusement dans le clientélisme, celui du lobby des promoteurs privés et des cadeaux aux petits copains. Tout d'abord, une vision à courte vue. Aucun projet structurant, mis à part la promenade de la Savoureuse. Après l'abandon de votre projet phare du parking souterrain, que restera-t-il de votre mandat ? Ensuite, l'amateurisme. Des déclarations, nous avons eu 18 mois de déclarations rapides, précipitées, que vous faites sans arrêt dans des conférences de presse, dans des réunions de conseil de quartier, dans les promesses que vous faites en direct, en live, aux habitants, sans étudier le bien fondé, ni de la demande, ni de son financement. Le parking de la Mat, nous en avons parlé tout à l'heure, un amateurisme que vous faites passer dans un premier temps pour, comme de la réactivité, comme une capacité extraordinaire d'écoute des Belfortins que vous tentez ensuite de camoufler là aussi par des contre-vérités graves qui traduisent malheureusement une bien triste conception de la démocratie et un abaissement aussi, je voudrais le dire ce soir, de la fonction de premier magistrat. Enfin, vous ne pensez pas quand même que les Belfortins sont crédules et naïfs à ce point, parce que les ficelles deviennent de plus en plus grosses. Et ce soir, nous en avons eu quelques exemples. Vous prenez même pas la peine de faire dans la finesse. Votre mandat va être marqué, en réalité, par une frénésie d'achat et une politique que je considère être irresponsable en matière immobilière. Construction à tout va. Lancement de plusieurs projets immobiliers en même temps. Il est là le problème. Qui va totalement déstabiliser et dérégler le marché privé. Je ne reviens pas sur le projet de la laiterie, Jean Moulin, la Miotte, les Forges, Aumont, le site de l'hôpital, le bâtiment de l'ancien conservatoire. Tiens, vous n'avez pas donné de nouvelles sur le devenir de ce bâtiment puisqu'il était inclus dans le projet de parking. Vous avez annoncé lors d'un dernier conseil de quartier centre-ville l'abandon de la poursuite de l'urbanisation de la ZAC du parc à ballons, devant un Belfortin qui vous interpellait sur cette question. Par une ZAC qui, je le rappelle, a un équilibre budgétaire fragile et qui pourrait être menacée par cette décision. Mais là aussi, nous n'en avons pas eu information au conseil municipal, vous l'avez juste annoncé en conseil de quartier. Cette ZAC, on le sait, vous l'avez critiquée, mais ce n'est pas en ouvrant l'urbanisation des terrains les plus convoités par les promoteurs que vous la terminerez. Clientélisme encore avec les associations des petits copains. On l'a déjà dit, on le redit encore ce soir. Vous nous dites faire des économies sans réduire les services à la population. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est une blague. Demandez aux parents si en matière d'éducation et d'accès aux loisirs, ils ont les mêmes services qu'en 2013, et vous aurez la réponse. La baisse du niveau de service à la population s'est faite, en effet, avec une casse des politiques éducatives, un sabrage des associations de l'éducation populaire, et enfin, une tentative de mettre au pas, sous tutelle, la vie associative. On en reparlera concernant les centres socioculturels. Dans la baisse du service à la population, le périscolaire sera le grand sacrifié de votre politique, avec la suppression totale des activités, le remplacement par de la garderie. Attention pour les parents qui travaillent uniquement. Plus aucune activité culturelle et sportive. Un abandon des enfants des classes populaires, car plus rien dans les quartiers. Les enfants sont invités à rentrer chez eux. Vous avez anéanti, en 18 mois, une politique volontariste de soutien éducatif aux familles les plus défavorisées économiquement et culturellement. Nous avions, oui, cette ambition, celle de gommer les inégalités d'accès aux loisirs, d'ouvrir les petits Belfortins au monde de la culture, de l'art, des sports, quelle que soit leur catégorie sociale et leur quartier d'habitation. Vous avez donc anéanti en 18 mois 40 ans de volontarisme et je vous le dis ce soir, vous en serez comptable dans les années à venir car notre pays, vous l'avez tous constaté, glisse doucement vers le repli social, le repli identitaire, le repli religion. C'est votre conception de la politique de la ville. J'ai été pour ma part attristée lors du conseil d'école de Pergaud quand j'ai appris que aucun, je dis bien aucun, c'est zéro enfant ne fréquente une activité sportive, culturelle dans cette école. Je poursuis l'analyse budgétaire un peu plus dans le détail. Concernant les taux, alors je ne m'attarderai pas sur eux puisque là, il n'y a pas d'augmentation, mais ce n'est pas une nouveauté. Cela fait 10 ans que les taux n'ont pas été augmentés. La maîtrise de la fiscalité donc, que vous proposez n'est ni une nouveauté, ni une caractéristique de votre politique. Nous l'avions également menée. Concernant la section de fonctionnement, il y a une baisse des dépenses à caractère général à hauteur de 500 000 euros. La maîtrise des dépenses n'est évidemment pas critiquable en soi et je ne vais pas faire ici de démagogie. La maîtrise des dépenses est pour moi une nécessité. Mais il convient de regarder de plus près quelles sont les dépenses, les lignes budgétaires réduites ou supprimées. Ces choix ne sont pas anodins. Nous l'avons dénoncé pour les dépenses en matière d'éducation. Eh bien, pour 2016, chers collègues, j'ai encore l'honneur de vous annoncer que l'éducation va encore faire les frais des baisses de dépenses à caractère général. Il ne fait décidément pas bon être écolier à Belfort. Moins 38 000 euros de fournitures scolaires. Le deuxième poste qui nous inquiète, nous l'avions déjà dit en 2014, nous l'avons redit en 2015 et nous vous le redisons ce soir, la question de la maintenance, les petits travaux d'entretien, puisque là aussi, il y a une baisse de moins 320 000 euros. Enfin, une baisse dans les moyens et les conditions de travail des salariés. Moins 85 000 euros au total sur tous les postes, dont je donnerai juste un seul exemple, 25 000 euros de moins pour la formation. Nous vous avons demandé, ici même et par écrit à plusieurs reprises, nous ne l'avons jamais obtenu, nous aimerions l'obtenir dans les jours qui viennent, de nous donner dans le détail la dépense de la dotation de l'État que vous a donné l'État pour l'accompagnement des rythmes scolaires. Nous ne l'avons toujours pas eu, notamment son fléchage. Pour les dépenses de personnel, nous constatons là en effet un dérapage qui est plus qu'inquiétant puisque ces dépenses de personnel passent de 36 millions à 38 millions d'euros, plus 3,23%, c'est 1 million de plus. En dehors de l'impact GVT, j'aimerais avoir quelques précisions parce que l'impact GVT, c'est une dépense incompressible. Elle représente 306 000 euros. Voilà. Là, on n'a pas toutes les explications. Alors, vous nous dites qu'il y a une augmentation du personnel, notamment sur la police municipale. Alors, c'est un sujet qui revient. Oui, vous avez créé des postes de policiers municipaux, mais ça ne suffit pas à l'explication. Je voudrais attirer votre attention sur ces dépenses qui plomberont à long terme le budget de la collectivité. Vous faites le choix de la création de postes, vous présentez même cela, et ça c'est en effet une nouveauté, vous présentez cela comme une politique de soutien à l'emploi. Alors ça c'est en effet très nouveau dans votre argumentation, ça méritait d'être soulevé, puisque jusque-là nous avons en effet entendu que nous avions beaucoup dépensé en personnel et que vous alliez venir mettre de l'ordre dans tout ça. Donc là, on constate un dérapage. Alors que les finances publiques se réduisent d'année en année, que l'effet ciseau entre une augmentation automatique des dépenses sans rien faire due seulement au GVT et la baisse des recettes nécessite en réalité une gestion très très rigoureuse et maîtrisée. Nous avons bien en tête les postes d'animateurs, des salles jeunes, mais à notre connaissance, ce sont des emplois à temps partiel ou en vacation. Donc, pouvez-vous nous dire quels sont les services qui ont bénéficié de ces créations de postes ? Concernant le soutien aux associations, on observe une augmentation de l'enveloppe allouée. Vous le dites, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle pour les heureux bénéficiaires. Car malheureusement, cette manne ne bénéficie pas au plus grand nombre, mais seulement à quelques privilégiés. Nous avons dénoncé ce traitement lors du vote de votre budget 2014. Vous avez continué en 2015 et vous passez à la vitesse supérieure en 2016. Nous vous mettons en garde contre ce traitement inéquitable, favorisant les associations proches de vos amis et celles de vos adjoints, l'athlétisme, le tennis, le patin glace. Nous avons eu l'occasion déjà de les citer ici. Sans oublier toutes celles que vous avez décidé d'asphyxier, parce que dans le monde associatif, eh bien, tout le monde ne vous plaît pas. Celles que vous avez décidé d'asphyxier par une suppression totale, injuste et non justifiée. Vous auriez pu mentionner, par souci de transparence dans le rapport, les associations qui bénéficient de ces augmentations. Pour le remboursement du capital de la dette, là aussi, j'ai en effet la même interrogation. Vous réduisez l'effort de désendettement de 500 000 euros par rapport à 2015, alors que nous sommes, je vous le rappelle, en début de mandat. Et si l'effort ne se fait pas en début de mandat, il ne se fait pas en cours. Et à la fin du mandat, en tous les cas, il ne se fait pas dans les mêmes proportions. Je vous rappelle le cycle d'un mandat. Les 3-4 premières années, nous nous désendettons pour pouvoir, lors des 2 dernières années, sortir les projets et réinvestir. C'est le cycle normal. Nous étions passés d'un endettement de 69 millions d'euros lors du mandat précédent en 2008 et nous étions arrivés en 2012 à un endettement de 49 millions d'euros, ce qui nous a permis d'investir et de repartir donc sur un financement des projets de fin de mandat. Là, vous baissez la voilure et c'est en effet inquiétant parce que pour nous aussi, vous augmentez l'endettement de la ville. Concernant la section investissement, nous attirons encore votre attention sur le budget maintenance des bâtiments municipaux et infrastructures, puisque vous l'avez fortement réduit déjà en 2014. De mémoire, vous l'aviez réduit de 800 000 euros en 2014. Il est passé donc de 3,5 millions en 2013 à 2,8 millions en 2014, puis 2,5 millions en 2015. Là, il est à 2,7 millions, donc vous remontez un petit peu, mais vous ne rattrapez pas la première erreur qui a été faite en 2014. Je dis que c'est une erreur parce que c'est important, le niveau de maintenance. Nous l'avons beaucoup entendu ici. Hein. On a eu des interventions parfois caricaturales sur des rideaux en lambeaux dans les écoles parce qu'on aurait laissé donc les équipements se détériorer. Mais nous investissions, nous, 3,5 millions, alors que vous en investissez que 2,7 millions. Imaginez, à la fin de ce mandat, la future équipe municipale, ce n'est pas des rideaux en lambeaux qu'elle retrouvera, c'est des infrastructures en très mauvais état sur l'ensemble de la ville. Voilà, je vous remercie.
Bien, je crois que M. Archambault voulait parler.
Oui, tout d'abord, la technique d'affichage des taux est certes ancienne, mais je continuerai à la critiquer. Si les taux ne compensent pas l'augmentation des bases, les impôts, eux, augmentent, alors que les salaires, eux, tout le monde le sait, n'augmentent pas. Donc, finalement, ce prélèvement-là est de plus en plus dur à supporter par nos administrés. Il reste effectivement la question de la dette qui est celle qui permet finalement d'évaluer l'ensemble de la gestion. Il me semble que finalement vous souhaitez n'évaluer la dette qu'au 31 décembre. Donc, quand connaîtrons-nous la dette de l'année 2015 ?
Merci, Monsieur Archambault. Madame Guillot, puis Monsieur Schmitt.
Oui, merci, Monsieur le maire. J'aimerais revenir un peu plus en détail sur les montants alloués à certaines associations. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Madame Jabert quant au fait qu'il y a 2 ans, vous nous avez dit, enfin il y a 18 mois, vous nous avez dit qu'un barème serait créé, qu'il n'y aurait plus de justice, que certaines associations avaient souffert d'iniquité. Bon, on se rend compte que ce barème profite toujours aux mêmes. Et surtout, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que ce barème, on peut observer des baisses, celle du centre chorégraphique, Gaïa Énergie, Mercredi du Château, Théâtre du Pilier, Amicale de la Pépinière, l'Office du Tourisme. Et puis surtout, j'aimerais que vous puissiez me dire où sont passées certaines associations. Je me suis émue il y a 18 mois de la disparition des Francas, de l'UNSS, de l'USEP. J'aimerais savoir où sont passées les enveloppes allouées aux syndicats, à la FCPE. Et j'aimerais bien savoir ce que vous avez exactement contre l'éducation populaire, parce que j'aimerais m'attacher un peu plus sur les dernières lignes de ce budget alloué aux associations et qui sont dévolues aux centres socio-culturels. Pour moi, le dernier rempart actuellement de cette éducation populaire. Vous organisez une réunion le 18 décembre à laquelle président et directeur sont invités et qui posera la question de la critérisation des subventions alors que le montant est d'ores et déjà soumis au conseil municipal. C'est de la concertation. Vous dites qu'au mois de juillet, l'association unique sera faite. Ce que, réunion après réunion, martèle l'ensemble, la totalité, en parfaite unanimité des centres socioculturels, ils sont tous pour la mutualisation, ils sont tous pour la création d'une association mère, mais jamais ils accepteront la disparition de leur propre association. Bon, on verra ce que ça va donner. Vous dites qu'en juillet, tout sera bouclé, que la concertation... Alors, donnez-moi un peu plus de précision sur les chiffres que vous nous donnez. L'année dernière, dans le budget, a été allouée une enveloppe de 423 300 euros directement ciblée, subvention ACSB, en direction des pays, des directeurs, des centres socioculturels et maisons de quartier. Cette année, nous voyons une enveloppe de 336 000 euros 54, je pense que c'est ça, qui est mise en tant que fonctionnement centre association mutualisation. Donc, elles ne seront déjà pas reversées dans les centres sociaux maintenant, alors que tous ces centres attendent le mois de janvier pour payer leurs directeurs et leurs salariés, enfin, leurs directeurs. Donc, je me demande quand est-ce qu'ils auront cette enveloppe. Et j'espère que vous n'allez pas la bloquer le temps que vous allez imposer votre projet. 2 autres enveloppes, subvention exceptionnelle, lancement association, mutualisation. Est-ce que c'est l'audit dont on entend parler, ce lancement de l'association, est-ce que c'est un audit? J'aimerais avoir cette réponse. Fonctionnement du siège de l'association mutualisation des centres socio-culturels. Donc, vous ne savez pas ce que vous allez en faire. Pourquoi cette enveloppe? Combien de postes au siège? Qu'est-ce que sera ce siège? Est-ce que vous allez faire des embauches? Quel coût par poste? Enfin, là, vous avez déjà un projet bien, bien, bien bouclé. Et moi, j'espère que vous allez entendre ces associations parce qu'elles le méritent et que vous ne passerez pas outre et que vous n'allez pas les étrangler parce que là, si vous ne débloquez pas cet argent centre par centre pour pouvoir leur donner la possibilité de payer leurs salariés, vous allez les étrangler et c'est un passage en force pour moi pour tuer ces associations. Donc, je serai très vigilante à ceci. Merci.
Merci, Monsieur Schmitt. Ça va être très rapide, monsieur le maire. Moi, j'ai besoin d'une précision parce que il y a une contradiction avec ce que vous avez dit en début de conseil. D'après mes calculs, l'encours de la dette va dépasser les 74 millions à la fin 2016. Est-ce que je me trompe? Je ne crois pas, d'après les calculs que j'ai faits. Et en début de conseil, vous avez dit l'ancienne municipalité, l'ancien régime nous a laissé... Enfin, vous n'avez pas utilisé aujourd'hui le mot l'ancien régime, mais l'ancien régime nous a laissé 74 millions de dettes. Vous les dépassez aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Et c'est bien sûr reporter le problème dans le futur pour les générations futures. Merci.
Merci. Yann Boucard souhaitait prendre la parole.
Merci, monsieur le maire, pour répondre brièvement à madame Jabert, qui a à nouveau parlé de suppression totale des activités périscolaires. Je voudrais paraphraser madame Jabert, qui en début de conseil municipal avait dit que ce n'est pas parce qu'on répète plusieurs fois un mensonge qu'il en devient une vérité. Mais effectivement, madame Jabert avait raison. Il faudrait qu'elle arrête de répéter ce mensonge. Il n'y a bien pas de suppression totale des activités périscolaires. Les parents laissant leurs enfants dans les centres périscolaires de la ville de Belfort peuvent en attester tous les jours. Je voudrais aussi lui dire que quand elle dit ça, elle pense nous toucher, nous. Enfin, quand vous dites ça, Madame Jabert, c'est bien évidemment les professionnels de l'animation, les directeurs périscolaires, les animateurs périscolaires qui tous les jours font un travail formidable dans nos centres que vous touchez. Vous cherchiez des services qui avaient bénéficié de création de postes au cours de l'année. Au cours du conseil municipal, on a pu évoquer le fait que nous avions souhaité déprécariser notamment ces fonctions-là. Et je vous dis que, je vous répète, puisque nous l'avons déjà vu, qu'effectivement le périscolaire a bénéficié de la création de 6 postes de directeurs périscolaires qui étaient autrefois des vacataires qu'on prenait au mois de septembre, qu'on renvoyait chez eux au mois de juin, puis qu'on reprenait au mois de septembre. Désormais, ils sont salariés de la ville de Belfort et seront demain pleinement fonctionnaires de collectivités territoriales. Vous évoquez ensuite le fait qu'aucun enfant à Pergaud ne pratique une activité sportive ou culturelle. Alors tout d'abord, à l'école Pergaud, il y a également des activités périscolaires de qualité. Et je voudrais rappeler que le tissu associatif que Mme Guillot semblait vouloir défendre il y a quelques secondes est particulièrement dynamique à Belfort et notamment au quartier des résidences. J'ai en tête quelques clubs sportifs, des clubs de foot, des clubs de karaté, des clubs de tennis qui sont implantés sur le quartier des résidences et qui font un travail énorme tous les jours au quotidien avec les enfants belfortins. Il y a également des associations culturelles qui agissent sur le quartier des résidences, sur le quartier des Glacis, sur le quartier de Belfort Nord, comme ils peuvent agir ailleurs. Et parce que l'accompagnement des jeunes ne s'arrête pas quand ils ont 11 ans, nous avons décidé que le service jeunesse interviendrait désormais dans tous les collèges publics de la ville. Le collège Gérard de Vinci bénéficie d'ailleurs de cet accompagnement depuis lundi dernier. Et nous interviendrons dès le mois de janvier au collège Rimbaud, qui, comme vous le savez, connaît un climat particulièrement difficile, le collège Rimbaud, parce que votre municipalité avait fait le choix dogmatique, dirons-nous, de ne pas s'occuper du quartier de Bougenelle, comme vous aviez d'ailleurs fait le choix de ne pas vous occuper du quartier de Belfort-Nord. Nous devons donc maintenant reprendre cette chose à son compte. Et j'ai eu l'occasion de comprendre que M. Nass, le principal du collège Rimbaud, était particulièrement content qu'enfin la ville de Belfort s'occupe un peu de ce qui se passe aux alentours et dans son collège. Ça sera désormais chose faite. Enfin, sur les salles jeunes que vous décriez tellement, que vous avez passé bientôt un an et demi à décrire, c'est pareil, hein, je pourrais reprendre la phrase sur les mensonges. Il se trouve que les équipes de Territoire Habitat aux résidences et aux Glacis ont fait le constat que depuis que nous les avions ouverts, les attroupements dans les halls d'immeubles sont en forte diminution. Nous avons d'ailleurs de moins en moins de plaintes de locataires de Territoire Habitat. Je pense aussi à Place Schumann, je pense aux deux Places Schumann, je pense à la rue Dorée, à la rue de Zaporodji, la rue de Moscou, je pense à la rue Parent, la rue Payot. Enfin, je ne vais pas vous citer toutes les rues des quartiers que vous ne visitez plus depuis bien trop longtemps, mais qui effectivement, où les habitants me disent, eux, qu'ils sont très contents qu'on ait ouvert ces salles parce que le rôle... Il n'y a plus personne dans leur hall. Et je croise aussi ces jeunes qui me disent qu'eux sont très contents parce qu'ils ont enfin des endroits sécurisés, chauffés, où ils peuvent se réunir. Parce que je vous rappelle que vous avez laissé ces quartiers dits prioritaires dans une déshérence totale où aucun commerce n'était plus ouvert à la fin de votre mandat. Aucun, j'exagère un peu, mais très peu le soir. Le soir, Madame Jabert, excusez-moi.
Vous avez bien laissé parler, M. Boucard.
Dans votre monologue de 37 minutes, vous avez fait quelques exagérations. Permettez-moi que j'en fasse une également.
Alors, merci. Je crois qu'il y avait Alain Picard qui souhaitait prendre la parole.
Madame Jabert, à moins que je ne voie pas bien clair, et pourtant je mets des lunettes maintenant, eh bien, il se trouve que les rideaux en lambeaux, je les ai vus à l'école Ruclin. Ce n'est pas une vision de ma part, c'est la réalité, c'est le directeur de l'école qui me les a fait voir. Alors je crois qu'il faut arrêter aussi les mensonges, que tout le monde les arrête. Et je crois qu'il y a eu comme quel terme insultant qui ont été portés en face du maire. On a parlé de malversation, pas tout à fait, mais presque, avec le copinage avec l'immobilier. Je pense que si on continue à faire la politique comme ça, ce sera un fonds national, pas en dessous de 30, mais à 40%. Donc je pense qu'il faudrait peut-être moduler un petit peu et changer les dialogues dans cette salle. Je vous remercie.
Très bien. Marie-Hélène Yvol voulait répondre, je crois.
Oui, alors répondre à Madame Guillot, effectivement, pour la rassurer, que bien entendu, les subventions... Pardon ?
Non, mais Madame Guillot se tait, elle a parlé suffisamment longtemps, la parole
est... Excusez-moi, j'ai cru que vous étiez inquiète, et donc j'essaie de vous rassurer. Et à travers vous, effectivement, tous les centres socioculturels, mais qui le savent déjà, puisque je leur ai déjà expliqué, que bien entendu, les subventions seront versées pour la première partie de l'année 2016, de manière à ce qu'ils puissent, dès le début de l'année, fonctionner tout à fait normalement, et en particulier, bien entendu, payer le salaire de leurs employés. Sur la deuxième partie de l'année, il y a... Je pense que vous l'avez vu, donc une enveloppe qui reste à flécher et qui sera versée effectivement à la nouvelle association en fonction du calendrier et de la forme de la nouvelle organisation, qui sera donc versée à cette nouvelle association et ensuite qui sera refléchée vers toutes les structures de manière à ce qu'elles puissent fonctionner dans la continuité et qu'elles puissent, je dirais, continuer leurs activités et leurs animations.
Merci Madame Ivol. Effectivement, la gauche avait souhaité mutualiser en faisant la CSB, mais comme beaucoup de projets voulus par la gauche, cette association a périclité, donc nous reprenons les choses en faisant une association commune qui, elle, va fonctionner en tenant les comptes et en faisant les choses convenablement. Oui, Marie-Hélène.
Et je voudrais quand même rappeler que dans les statuts de la CSB, il est dit que la CSB assure le suivi des budgets prévisionnels des centres, donc la gestion des centres, et est chargée de l'exercice de l'ensemble des missions support permettant le fonctionnement des centres. Donc c'est exactement ce que nous souhaitons faire.
Alors,
mais dans une organisation un petit peu différente.
Vous n'avez pas la parole, donc vous vous taisez, s'il vous plaît. Vous laissez, mais arrêtez de vociférer. Vous avez eu la parole, vous avez parlé pendant près d'une heure, l'opposition pendant près d'une heure. Alors, acceptez quand même que nous puissions vous répondre pendant peut-être un quart d'heure ou 20 minutes. C'est à 4, je pense que nous avons quand même le droit de vous répondre. Je vous rappelle que vous êtes l'opposition. Alors j'ai bien entendu, Madame Jabert, que tout était merveilleux quand vous étiez là. Vraiment, les Belfortins sont des gens étranges. Tout allait bien. Tout fonctionnait magnifiquement, la concertation était fantastique, les budgets étaient bien tenus. On ne comprend pas pourquoi on est passé de 46 millions à 73 millions de dettes, parce que tout allait bien et vraiment on ne comprend pas pourquoi ces Belfortins ne vous ont pas réélu. Alors, quand vous me parlez de maintenance, parlons de maintenance, Madame Jabert. Le kiosque en face, il s'écroulait. Le toit de la mairie à côté, il y a des fuites partout, il a fallu le réparer. La chapelle de Brasse, elle s'effondrait. Le stade d'athlétisme, capoute. La piscine, 40 ans qu'elle avait été construite, elle s'effondre, il a fallu la consolider pour éviter. Alors si c'est ça votre maintenance, effectivement, je préfère la nôtre à la vôtre. Excusez-moi de vous le dire. Monsieur Faudot, vous racontez des carabistouilles. Excusez-moi de vous le dire. Parce que quand vous dites que j'ai promis... que j'ai promis aux parents d'élèves, c'était Madame Coutru qui pourtant était sur votre liste, que je lui ai promis de refaire les vitres, vous avez totalement tort. Je lui ai promis de venir voir avec les parents à tel point qu'elle m'a téléphoné en me disant, conformément à ce qui a été dit au conseil de quartier, je vous demande un rendez-vous avec les parents d'élèves, rendez-vous que je vais lui donner pour aller sur place voir ce qu'il y a à faire avec nos services. Et là, on va décider des choses, puisque je lui ai dit, soit on refait complètement, mais ça, ce ne sera pas possible, puisqu'on a décidé de faire Ruclin. C'est le choix qui a été fait. Je pense qu'après Ruclin, la prochaine école sera peut-être les bars, il faut qu'on en discute. Mais il y a des travaux urgents à faire, et là, je suis d'accord pour qu'on envisage d'en faire un certain nombre. Alors, est-ce que ce sera les fenêtres? Je ne sais pas, mais il faudra regarder. Mais je ne peux pas prendre de décision avant d'aller. Évidemment, vous preniez les décisions, vous concertiez personne. Nous, on prend la peine d'aller sur place avec les parents et de concerter, ce qui prend un petit peu plus de temps. Et Madame Jabert, vous ne manquez pas d'air. Ça rime, mais en tout cas, je peux vous dire que vous avez un sacré toupet. Quand vous nous dites que les dépenses pour les écoles baissent, vous oubliez une chose, c'est de mettre avec le budget des écoles, le budget que la CAB va quand même consacrer à l'investissement, parce qu'il y a 3,5 à 4 millions d'euros qui vont être consacrés à l'informatisation des écoles, qui sont dans le budget de la CAB. Alors évidemment, si vous enlevez ce budget et que vous ne le rajoutez pas au budget des écoles, vous pouvez dire qu'on ne consacre pas d'argent à l'école, mais les 3,5 millions d'euros qu'on va consacrer à l'informatisation des écoles, il faut évidemment le remettre dans le budget. Il est sur le budget de la CAB, il n'est pas dans le budget de la ville. Et quand vous nous parlez aussi d'une augmentation du budget du personnel de 1,21%. Je vous rappelle que quand vous étiez aux commandes sous l'Ancien Régime, c'était, puisque ça plaît que je parle de l'Ancien Régime, 6 à 7% d'augmentation des frais de personnel. Donc vous voyez, il y a une grosse différence entre ce qui était fait avant et ce qui est fait maintenant. Alors vous nous parlez des associations. Les associations, globalement, leur budget augmenté de 1,88%. Vous me parlez des francas,
Mais excusez-moi, vous nous avez fait 3 procès là-dessus. Enfin, les Francas nous ont fait 3 procès que Mme Guillot a soutenu dans des tweets, dans des choses et tout. Vous avez perdu les 3 procès. Vous passez votre temps à nous faire des procès. Monsieur Faudon's a fait sur le parking. Il nous a donné 1 000 euros. Je reconnais qu'il a réglé rubis sur l'ongle. Il était débouté, était condamné à nous payer 1 000 euros. Votre ami, M. Kern, nous a refait un procès sur Monoprix. Alors, c'est vrai, il a réussi une chose, c'est que la façade de Monoprix qui devait être faite pour Noël... On va prendre un petit peu de retard, elle n'est pas fantastique, mais on va y arriver. Un avocat, il est vraiment très doué, il est arrivé à se faire débouter au tribunal administratif et il vient de perdre un procès. Depuis le début que nous sommes là, c'est 5 procès que vous avez perdus. Vous pouvez continuer sur... vous pouvez continuer 3 qui ont été perdus par les Francas que l'opposition soutenait, 1 qui était perdu par vous et 1 par monsieur... par M. Kern, 3 plus 1 plus 1, chez moi ça fait 5. Peut-être que vous avez des problèmes de calcul, mais moi c'est comme ça que ça marche. Alors vous nous dites, vous nous disiez qu'on n'investissait plus assez. Alors là je reconnais M. Faudon, vous avez dit, ça y est, vous avez fait 11 millions d'euros d'investissement. C'est vrai, nous avons lancé un certain nombre de grands investissements. Nous avons lancé la salle des fêtes, nous avons lancé la restauration de la cathédrale, nous avons relancé le stade des Trois Chênes, l'extension de la maison de quartier centre-ville, etc. etc. Nous avons une politique d'investissement très forte. Mais ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, alors vous avez essayé de torturer les chiffres dans un sens, dans un autre, pour essayer de dire que avant tout allait bien et que maintenant la nuit est tombée sur Belfort, qu'il va pleuvoir des crapauds et des sauterelles et que ça va être une catastrophe depuis que nous sommes là. Je n'ai pas l'impression que les Belfortins aient senti ce changement en mal, ils ont plutôt senti le changement en bien. Parce que quand vous nous parlez de... Quand vous nous parlez de clientélisme, quand vous nous parlez de client... Mais on peut parler, quand vous nous parlez de clientélisme, ça veut dire simplement que là où vous faisiez des places d'armes sans concerter personne, quand vous faisiez des travaux partout sans concerter personne, eh bien maintenant, on voit les gens. Ce n'est pas du clientélisme, c'est simplement de la démocratie participative. Et quand on voit des gens, alors évidemment, ça vous fait ricaner quand il faut couper un arbre par ici, quand il faut faire une traversée piétonne en plus, quand il faut faire un verger participatif. Alors ça, évidemment, vous, ce n'est pas de votre niveau. C'est bon pour les petites gens. Vous, vous êtes au-delà de ça, évidemment, avec vos grands airs et vos habitudes, le gang des voitures de fonction et des chauffeurs, eh bien cela c'est fini. C'est pas notre façon de voir la démocratie. Pour nous, la démocratie, c'est d'aller voir les gens, c'est de discuter avec eux et de mettre en place des projets participatifs, comme l'a fait très justement, Delphine. Quand je vois le mois givré et quand je vois le succès qu'il y a, il suffisait de voir au lancement du mois givré la place d'armes qui était noire de monde. Quand on voit les gens qui viennent nombreux dans les conseils de quartier, qui viennent nombreux aux conseils, aux concertations, eh bien, je vois. Vous voyez, vous avez déjà une attitude de la démocratie. Nous vous avons entendu pendant 1 heure. Vous n'êtes même pas capable d'écouter nos arguments pendant 5 minutes sans ricaner, vociférer et essayer de vous rendre. Vous êtes lamentable. Vous avez eu une gestion lamentable. Vous avez eu une gestion lamentable de la ville et vous avez un comportement lamentable qui manque totalement de respect. Alors, chacun a sa façon de voir. Chacun a sa façon. Sébastien Vivot va vous répondre. Chacun a sa façon.
Ils ne peuvent pas arrêter de brailler 2 minutes.
Je veux dire, chacun a sa façon de voir. Si vous essayez de masquer votre pauvreté intellectuelle, parce qu'il y a quand même une chose tout à l'heure qui m'a fortement choqué, Madame Jabert. Vous avez eu l'argument de dire les gens qui sont socialement défavorisés sont culturellement défavorisés. C'est-à-dire que les pauvres n'ont pas de culture. C'est ça que vous avez essayé de dire. Eh bien, ça, c'est absolument scandaleux. Parce que nous avons une politique d'accès de tous au sport,
à la culture, à un certain nombre d'activités que vous n'aviez absolument pas. Et cela, ça vous embête, parce que vous voyez bien que le coup de pouce-clé où on apprend, où on donne, au lieu de faire du lancer de cerceau dans vos tapes telles que vous les faisiez, eh bien nous proposons maintenant... Non, Jean-Marie, mais laisse-les, ils ne cherchent que ça, à provoquer des incidents pour se rendre intéressants. Laisse-les faire, ils peuvent brailler, ça ne m'impressionne pas, je continuerai. Simplement, ce que je veux dire, c'est quand vous faisiez du lancer de cerceau aux gamins, on a remplacé ça maintenant par le coup de pouce-clé que Monique Monod a mis en place. Le coup de pouce-clé, zéro, eh bien regardez, madame, mais arrêtez. Mais à Pergaud, madame Jabert, à Pergaud, vous savez ce que me disent les gens ? Vous savez ce que me disent les gens ? Ils me disent, monsieur Meslot, merci de nous avoir débarrassé de madame Jabert. Voilà le résultat, voilà ce que disent les gens. Parce qu'à Pergaud, vous n'avez même pas été capable de sécuriser la sortie de l'école que nous avons fait. Vous n'avez même pas été capable de faire un certain nombre de travaux que vous demandez les gens. Alors voilà, on peut en discuter pendant longtemps. De toute façon, les Belfortins jugeront. Je vois que vous ne répondez à nos arguments que par des vociférations. Je note que notre gestion est saine. Nous avons 11 millions d'euros d'investissement tous les ans. Nous avons baissé les charges à caractère général, le train de vie des élus, le train de vie d'un certain nombre de gens qui profitaient largement des voitures de fonction, des téléphones, des places de stationnement, et on pourrait encore en parler. C'est ça que nous avons baissé, qui nous donne des marges pour investir. Nous continuerons dans cette politique. En matière associative, nous nous concentrons sur ce qui est évidemment. Nous avons supprimé des subventions à des associations qui relevaient de la politique, je pense à la VADEM, de la politique régalienne de l'État. L'État ne peut quand même pas couper 12 millions d'euros de financement à la ville de Belfort et nous demander en plus de payer pour des politiques qui sont de la responsabilité de Madame Taubira. Il faut être clair, nous nous concentrons sur ce qui est de notre responsabilité. Voilà les choses. Donc notre budget est un budget sincère, c'est un budget clair qui préserve l'avenir. Et ce qui m'a le plus choqué dans ce que vous avez dit, c'est que l'opposition, vous n'avez même pas eu une parole pour parler du développement de l'emploi à General Electric. Vous tirez la ville vers le bas. Eh bien, ce qui se passe à General Electric, c'est peut-être ce qui aurait dû faire le plus grand débat au sein de cette Assemblée. C'est plus de 500 emplois qui vont être créés. C'est des centres de formation. C'est de l'emploi hautement qualifié qui va venir sur Belfort. C'est les plus grosses créations d'emplois depuis 50 ans. Pas un mot, parce que l'économie, vous êtes complètement absent. Tout ce qui est bien pour Belfort, ça vous attriste. Tout ce qui va dans le sens de l'abaissement de Belfort, tout ce qui va dans le sens vous réjouit. Vous n'aimez pas Belfort, vous n'aimez que vos petits postes et vos petits prébendes. Voilà ce qui fait. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que ce budget a été très bien fait. Ce budget préserve l'avenir. Ce budget est un budget qui va permettre à Belfort de se développer. Et moi, je suis très content de ce qui se passe. Les Belfortais auront l'occasion de juger. Mais en 18 mois, on a fait les grands investissements. On a ramené de l'emploi. On a remis un marché immobilier en ordre, on a relancé le commerce, on a refait des vraies animations autour de Noël, on a réussi à rénover un certain nombre de choses qui tombaient en ruine. Voilà la réalité, tout ça sans augmenter les impôts, parce que vous avez pu remarquer que les taux ne changeaient pas, qu'on n'a pas augmenté les impôts et qu'on ne les augmentera pas malgré les 12 millions d'euros que nous rackette le gouvernement socialiste qui est au pouvoir en France. Nous n'augmenterons pas les impôts et nous réussirons à faire cela grâce à des marges que nous allons obtenir sur le fonctionnement. Voilà la réalité des choses. Alors maintenant, vous pouvez vous vociférer, vous pouvez vous exprimer, vous l'avez fait longuement pendant une heure. Chacun fera son choix, chacun choisira de penser ce qu'il a envie de penser. Mais je trouve quand même que vous devriez, après ce que vous nous avez laissé, vous devriez faire preuve d'un petit peu plus de modestie et par rapport aux dettes que vous nous avez laissées et au désastre de l'état de nos installations sportives et culturelles, vous devriez quand même faire preuve d'une plus grande modestie. Et je voudrais terminer par sur un point qui n'est pas budgétaire. La communauté de communes de Pont-de-Roide vient de voter le pôle métropolitain, en faveur du pôle métropolitain. Donc désormais, j'ai le plaisir de vous le dire, les 11 EPCI qui forment le pôle métropolitain ont délibéré favorablement et ont voté pour ce pôle métropolitain. Il n'y a donc plus rien qui s'oppose à la constitution de ce pôle. Reste maintenant à ce que les arrêtés soient pris, que les conseils départementaux et régionaux donnent leur avis, et ce grand pôle métropolitain de l'aire urbaine verra le jour. Ça, je crois que c'est plus important encore pour l'avenir. Les deux éléments, c'est les créations d'emplois à General Electric et ce pôle métropolitain. Ce sont les deux facteurs qui prépareront au mieux l'avenir de Belfort. À toi.
Alors, je vais répondre sur les éléments purement budgétaires. Déjà, je voudrais rappeler trois notions de base que visiblement beaucoup ont oubliées. Dans le budget, il y a trois exercices. Ah, je dirais, il y a trois exercices budgétaires, mais il y a trois grands débats qu'on a. Le DOB, le débat d'orientation budgétaire, c'est vraiment, je dirais, l'orientation politique. Le budget, là, c'est technique. Certes, avant, on nous présentait le budget avec une heure et demie de slides sur des projets qui n'avaient pas lieu d'être. On aurait dû les avoir plutôt au DOB. Donc, excusez-moi de me contenter sur la technique du budget, qui est de vraiment présenter une matrice budgétaire équilibrée dans le contexte que l'on connaît. Et le troisième exercice, c'est le CA, c'est le réalisé. C'est la réalité des chiffres à la fin de l'exercice. Aujourd'hui, sur certaines questions, j'ai l'impression que vous m'interrogez plus sur du CA que sur du budget. Donc, pour ceux que ça intéresse, on pourra éventuellement faire une petite formation. Si certains ne sont pas intéressés par les réponses, je leur invite à aller prendre un couler ou aller fumer une cigarette. Avant, Monsieur le maire, la prochaine intervention, vous demanderez de faire une prise d'assemblée.
Je pense, ça c'est une question de correction et de courtoisie, Monsieur Vivot, et malheureusement, certaines personnes, la politesse, on a du mal à leur apprendre.
Sur les exercices budgétaires précédents, entre 2007 et 2014, pour votre plan de connaissance, je vous invite à faire une analyse des budgets présentés et des CA. Vous verrez le montant des reports. D'ailleurs, de tête, je ne sais plus quelle année, on a frôlé les 30 millions sur 100 millions de budget. Donc le budget, on peut le présenter de plein de manières, dire que l'avenir est rose, faire plein de chiffres, mais quand on met 30 millions de reports sur un budget de 100 millions, à mon avis, il y a 30% de budget non sincère. Aujourd'hui, on a eu la volonté de faire un budget sincère. Chapitre personnel, question des 650 000 d'extérieur. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Je l'ai présenté dans le rapport. On a intégré au budget primitif tout le réalisé de 2015, y compris ce qu'on vous a fait voter au budget supplémentaire. Avant, sur l'année précédente, en général, en milieu d'année, après le CA, au budget supplémentaire, on ajustait ce personnel extérieur qui correspond essentiellement à du personnel de remplacement. Aujourd'hui, on l'intègre dès le départ du budget. Petits équipements, une baisse, oui. Cette année, il ne vous aura pas échappé qu'en 2015, on avait fait une opération sur les détecteurs de fumée qu'on ne renouvelle pas cette année. Donc, il y a une partie de ce budget. Et on avait consacré aussi, en début d'année 2015, plus de 100 000 euros pour l'équipement des anciens centres de loisirs des Francas. Donc, ces équipements sont faits. On ne les renouvelle pas cette année. Taxes, les évolutions sont essentiellement dues à l'évolution des bases. Sur le chapitre de la dette, je ne veux pas m'avancer sur une estimation 2015, ça, on l'aura au CA. Donc forcément, quand on ne peut pas estimer 2015 précisément, l'estimation 2016, elle serait encore plus fausse. En termes d'image, je dirais que c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Donc sur la dette, on verra aussi en fin de mandat, sur notre engagement, on en sera. Et je vous porte aussi à réfléchir sur ce qu'on a déjà dit dès le budget 2015. On a, c'est comme dans le, sur certaines courses, on a commencé notre mandat avec un handicap de 16 millions de reports d'investissement. Ça voulait dire concrètement, la première année de mandat, on n'avait rien à décider, on avait déjà une année de grillé, rien qu'avec les reports. Et ça, on est encore en train de l'absorber. Donc vous pouvez vous émouvoir que la dette, même en début de mandat, elle évolue légèrement. Mais pensez au handicap de l'héritage, les 16 millions d'investissements de reports. La maintenance, c'est le même chapitre. Maintenance, je vous invite à réfléchir avec les vraies enveloppes réalisées. La maintenance, aujourd'hui, je peux afficher un budget avec 5 millions de maintenance. Mais quand on, dans la réalité des chiffres, on faisait que 50, 60, 70% des opérations, quel intérêt de maintenir des enveloppes aussi hautes? Alors, l'année dernière, on a demandé un vrai effort sur la maintenance. Cette année, en discutant avec les services, avec les programmes qu'il y avait, avec la réalité des travaux qui sont dans notre capacité de réalisation, on a remonté légèrement l'enveloppe. Quoi dire de... Les berges, bien sûr, c'est une partie d'étude. L'évolution de personnel, on en a parlé. Alors, les associations privilégiées, j'inviterai tous ceux qui veulent à voir les critères objectifs pour les sports. Certes, aujourd'hui, ce n'est pas appliqué partout. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir avec Marie Rochette sur les associations culturelles. Pourquoi aujourd'hui deux associations de la même nature qui ont le même rayonnement, il y en a une qui est subventionnée à hauteur de 40 000 euros et l'autre 80 000. Alors que celle qui est subventionnée à hauteur de 80 000 fait que la moitié de son activité sur Belfort. C'est des vraies questions qu'on se pose. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement drastique sur ces associations, mais on va réfléchir à des critères objectifs, y compris dans le domaine culturel. Le scolaire, le maire a répondu, il y a eu un effet du transfert CAB. Le périscolaire, Yann a répondu, et en plus, il aurait pu nous présenter les effectifs, mais je crois même qu'on a beaucoup plus de monde qu'auparavant. Sur l'histoire des taux, M. Archambault, ça vous émeut. Mais oui, mais les taux, il n'y a que ça qu'on peut... c'est que sur les taux qu'on peut voter. Donc, je ne peux pas vous présenter autre chose sur les taxes. Les bases, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, nous, on présente dans le budget, on vous fait voter que sur les compétences de la commune. La dette 2015... On l'a dit qu'on la verra au CA 2015. Et pour répondre précisément, Mme Guillaume qui a cité la FCPE, je pourrais vous mettre à disposition le courrier que j'ai reçu dès le mois de septembre, que la FCPE m'a écrit personnellement pour me dire que cette année, il ne souhaitait pas déposer un dossier de demande de subvention. Donc, pardon ? Ah ben les syndicats, aujourd'hui, c'est le syndicat, c'est un choix de l'équipe municipale. Aujourd'hui, il n'est pas dans la compétence de la ville de soutenir tous les unions départementales de tous les différents syndicats. Aujourd'hui, c'est un choix qu'on a pris. Sur les centres socioculturels, Marie-Hélène a répondu. Donc j'en ai terminé.
Non, mais nous subventionnons les syndicats de la ville. Nous n'allons pas subventionner des unions départementales. Les unions départementales, c'est le conseil départemental qui doit les subventionner. Enfin, je veux dire, ça semble quand même un peu logique. Nous revenons à nos fondamentaux. Ça, c'est du clientélisme, effectivement, monsieur Leroy. Voilà, je crois que chacun s'est exprimé. Je vous propose de mettre le budget aux voix. Ceux qui veulent voter pour, voteront pour. Ceux qui veulent voter contre, voteront contre. Et ceux qui veulent s'abstenir, s'abstiendront. Vous pouvez ouvrir le vote. Voilà, le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Tout le monde a voté. Le vote est clos. Alors, 34 oui, 9 non et une abstention. Il en est ainsi décidé. Rapport 31, la parole est à Sébastien Vivot.
Donc, rapport sur les produits recouvrables, admission en non-valeur et créances éteintes. Rapport qui revient chaque année. Donc, vous avez eu tout le détail dans le rapport. L'année dernière, je vous ai fait l'explication de texte sur la différence entre les deux. Je ne vais pas vous la refaire cette année. Donc, il est demandé au conseil municipal de prendre acte des créances éteintes présentées par la trésorerie de Belfort, ville, pour le budget principal et le budget du CFA, et des mandatements qui seront opérés en conséquence, et d'admettre en non-valeur les montants présentés dans le rapport à hauteur de 49 241,09 € pour le budget principal et 5 415,70 € pour le CFA.
Merci. Pas de questions. On va mettre aux voix. Vous pouvez ouvrir le vote. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Voilà, tout le monde a voté. Marie-Hélène, tu as... D'accord, le vote est clos. Non, mais comme je sais que tu signais, je... Alors, 39 oui, 1 non, 3 abstentions, 1 non-participation au vote. Rapport numéro 32. La parole est à Sébastien Vivot.
Donc, le rapport qui concerne l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant Place de l'Étuve à Belfort, vous avez eu tout le détail dans le rapport. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe et les conditions du rachat du fonds de commerce du restaurant L'Allegria Place de l'Étuve, tel que cela a été décrit dans le rapport, et sa location, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à cette opération.
Monsieur Dreyfus-Schmidt.
Oui, monsieur Messler, a priori, personne à part vous n'est dupe concernant la présentation de ce rapport. Vous nous aviez transmis le même rapport lors du précédent conseil municipal du 17 septembre dernier pour le retirer au dernier moment aux catastrophes en séance. Lorsque je dis le même rapport, ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, ce n'est plus madame l'adjointe au commerce qui s'y colle, mais le très dévoué monsieur Vivot, qui est souvent chargé des tâches ingrates. Ensuite, dans le premier rapport, ce rachat apparaissait comme une nécessité au niveau de la sémantique. Aujourd'hui, vous ne parlez plus que d'opportunité. Le projet, le premier proposé, était intéressant. Aujourd'hui, le mot est supprimé. Bon, peut-être parce qu'il ne l'est plus. La sémantique, on le voit, a aussi son importance. Un petit oubli lors du premier rapport concernant l'estimation des domaines que l'on voit apparaître aujourd'hui dans le second rapport. Alors, mais vous le savez bien, que toute proposition d'achat ou de vente par la ville doit être accompagnée d'une estimation du montant du bien concerné par les domaines. C'est un principe de base sur lequel vous vous étiez confortablement assis sans aucun état d'âme. Sur le fond, M. Messleau, vous nous proposez dans ce rapport le rachat du fonds de commerce du restaurant L'Algéria par la ville de Belfort parce que... Pardon, oui, Négria. Parce que, dites-vous, dans le rapport, cet emplacement est stratégique pour la ville et qu'une activité de restauration se doit d'être préservée. Puis-je vous rappeler, monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints, que vous avez à votre disposition la procédure de préemption qui permet justement à la ville de Belfort de maîtriser le devenir de ce local. Dans le passé, l'exemple de l'ancien café du commerce, qui a été racheté à l'époque par le magasin Damar, avait permis précisément de mettre en place cette présomption commerciale. Préemption. Alors, on se demande effectivement pourquoi aujourd'hui vous n'utilisez pas cette procédure, d'autant plus que vous venez de nous parler de préemption à propos de l'étang des forges. Pourquoi se précipiter pour acheter ce local et que vous n'attendez pas une mise en vente sur le marché? Est-ce que vous craignez réellement qu'il pourrait prendre l'envie à un investisseur, d'acheter ce local pour aller y vendre des chaussettes, des aspirateurs ou des machines à laver? Placé où il se trouve, à l'écart des circulations piétonnes en vieille ville, cet imprudent commerçant aurait vite fait de mettre la clé sous la porte, conservant son stock de chaussettes et d'aspirateurs. Alors qu'au contraire, cette jolie place, située au pied du Lion, entourée de maisons anciennes, agrémentée d'une fontaine et de verdure, et bénéficiant de la tranquillité du coin, est l'emplacement rêvé pour la création d'un restaurant avec terrasse. D'ailleurs, si aujourd'hui des restaurants sont installés autour de cette place, ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est juste du bon sens dont vous semblez, une fois de plus, manquer quelque peu dans ce dossier. Alors, avant d'acquérir ce local, attendez de voir quel investisseur va l'acheter et pour quelle activité. Si cette activité ne vous convient pas, vous aurez alors la possibilité de faire valoir le droit de préemption de la ville. Le mode opératoire retenu, la précipitation dans laquelle tout cela est organisé et les nombreuses rumeurs qui courent au sujet de ce local nous alertent depuis un certain temps. Que s'est-il passé avec le gérant de ce restaurant? Il s'est, semble-t-il, à plusieurs reprises plaint de harcèlement, d'une difficulté à cohabiter avec les autres restaurateurs. Comme je vous l'indiquais précédemment, vous nous avez présenté un rapport sans estimation et retiré en début du conseil municipal, alors qu'à notre connaissance, un compromis de vente avait déjà été signé devant notaire. Bizarre.
Finalement, vous engagez l'argent des Belfortins dans une opération coûteuse et totalement inutile. C'est pas ce que l'on appelle une bonne gestion de l'argent public. Mais on commence à s'y faire après la suppression de la taxe sur la publicité extérieure, le projet de parking souterrain ou la distribution des DAF, dont j'avais déjà ici dénoncé le côté populiste, démagogique et dispendieux. Ce rapport est inacceptable, autant dans sa forme que sur le fond, et je dirais même qu'à mon sens, il est à la limite de la légalité. Je souhaitais donc le dénoncer ce soir ici devant le conseil municipal et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous ne voterons pas ce rapport tout en précisant que nous n'excluons pas par ailleurs la possibilité d'aller plus loin sur cette question particulièrement bizarre. Vous avez dit bizarre. Je vous remercie.
Très bien. Alors, Monsieur Faudeau.
Oui, Monsieur le maire, je vous remercie. Sur le fond, utiliser le dispositif pour qu'il y ait une intervention publique sur le commercial de la ville, sur le principe, ne me choque pas. Dans ce secteur de la ville, non seulement je n'en vois pas l'utilité, pour reprendre les termes de mon camarade Dreyfus-Schmidt, mais je pense en plus que c'est relativement, pour ne pas dire profondément, injustifié dans ce secteur qui ne souffre pas de problèmes de redynamisation commerciale. Ça ne manque pas, évidemment, de nous interroger, parce que nous ne l'avons pas vu faire jusqu'ici dans ce secteur de la vieille ville. Par ailleurs, lorsque vous proposez un rachat à 75 000 euros, alors que France Domaine le chiffre à 65 000, ça ne peut que renforcer cette suspicion. Suspicion qui repose également sur les rumeurs dont parlait Alain Dreyfus-Schmidt, puisque certains évoquent, assez ouvertement dans la ville, que vous êtes en train de nous faire honorer une promesse électorale que vous auriez faite en son temps à celui qui est aujourd'hui propriétaire de ce lieu. Ce sont là des rumeurs, je ne peux pas me fonder raisonnablement dessus, mais sur le fond, et votre réaction que vous venez d'y avoir il y a 5 minutes juste devant moi, quand vous vous êtes déplacé pour vous assurer que votre majorité vote avec les doigts sur la couture du pantalon, ne peut que m'inquiéter encore plus. Donc je dois dire que, évidemment, je voterai contre ce rapport. Je pense qu'il ne va pas dans le sens de l'intérêt de la ville. Je pense que vous le savez vous-même, mais que vous êtes obligé d'honorer aujourd'hui un certain nombre de choses, probablement, dont nous n'avons pas toute la grille de lecture.
Oui, effectivement, votre façon de faire, vos insinuations, il faut dire les choses clairement. 68 000 euros l'estimation, 65 des domaines. Nous l'achetons plus cher parce que nous achetons du matériel avec. Donc, soyons très clairs et arrêtons les insinuations. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous avez répondu dans toute la ville qu'on achetait ce restaurant pour le confier à la fille de mon adjoint Gérard Picpaille. Vous l'avez dit partout. Et l'opposition s'est l'écho de cela. Parce que diffamé, il en restera toujours quelque chose. Alors moi, je dis les choses telles que vous les avez dites, répétées et amplifiées. Bien, je vous le dis. Nous n'achetons pas ce restaurant pour cela. Nous achetons ce fonds de commerce pour une raison toute simple. C'est que nous avons eu à cet endroit un certain nombre de problèmes de voisinage. Il y a eu de nombreuses plaintes. Territoire Habitat n'arrivait plus, avait de gros soucis dans ce secteur parce qu'il y avait de gros problèmes. Nous avons eu le risque de voir s'implanter à cet endroit un bar à chicha qui ne nous semblait pas correspondre à ce que nous voulions pour cette place. Et j'ai décidé, effectivement, de l'acheter. Voilà, parce que je pense qu'au pied du lion, à cet endroit, il y a mieux à faire que d'implanter ce type de commerce. Je prends toute la responsabilité de cela. Si vous voulez nous attaquer, vous nous attaquerez. J'expliquerai aux Belfortins pourquoi j'ai fait cela. Et puis, ma foi, si vous voulez nous faire un procès de plus, refaites-nous un procès. Ce sera le 6e. Vous n'agissez que là-dessus. Voilà clairement les choses. Moi, je souhaite que la ville puisse acheter cela et qu'on ait un commerce de type traditionnel. Nous ferons une proposition, nous verrons si nous avons, nous louerons ce fonds de commerce et nous souhaitons avoir plus un type de restaurant à cet endroit, ce qui sera satisfaisant
pour le tourisme et ce qui sera satisfaisant pour l'ensemble des choses. Mais je trouve vraiment vos insinuations absolument... Dites les choses au moins, posez-nous, posez-nous. Ben, parce que ce commerce, le temps que la vente se fait, il va rester combien de temps encore? Je veux dire, moi, ce que je souhaitais, c'était maîtriser ce qui se faisait à cet endroit. Donc je fais ça comme ça. Donc, je vous le dis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Nous votons. Nous verrons bien si vous voulez faire Harcourt. Faites Harcourt. Et puis, ma foi, si jamais nous perdons au TA, nous irons au Conseil d'État. Et puis, voilà. Et puis, nous verrons bien ce qui est dit. Mais enfin, on a quand même la possibilité, quand on est dans ce pays, posez-vous la question, pourquoi on arrive à des scores de l'extrême droite à ce niveau-là? Parce que si on n'arrive plus maintenant à avoir la maîtrise d'un fonds de commerce au pied du lion, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Je fais ça très clairement pour ça. Je vous le dis, maintenant, vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ma position et ce que je fais. Mais moi, je pense que ce que je fais là va dans le sens de l'intérêt général et va dans le sens de l'intérêt de la ville. Voilà, je le fais. Alors, on peut avoir un avis différent, mais voilà les choses. Maintenant, je crois que Gérard a été mis en cause. Il a le droit de s'exprimer. Ensuite, nous passerons au vote. Et voilà. Non, il n'y aura plus d'autres prises de parole après Gérard.
Bien, merci, monsieur le maire. Je vous remercie. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous êtes en train de remplir l'encrier de la délation. Je veux dire par là que jamais, je vais être clair, monsieur Dreyfus, jamais, j'ai bien dit jamais, ma fille, moi, s'était porté à cœur de louer un local ou ce restaurant de la ville. Puisque vous êtes sur des on-dits, vous devriez un petit peu, lorsqu'on dit quelque chose, essayer d'assurer vos sources et de dire des vérités. Et vous me blessez beaucoup, monsieur. Ma fille, qui tenait un restaurant pas très loin de la place, se casse la figure parce qu'elle n'est pas du métier. Et vous pensez bien, monsieur, que j'allais l'autoriser, ou elle n'allait pas me demander mon autorisation, mais vous pensez bien que si j'avais appris, parce que ça n'est même pas venu à son dîner non plus, de prendre un restaurant à côté. Non, mais enfin, il faut arrêter, monsieur Dreyfus. Je peux... Non, mais attendez. Attendez, que le rapport, que vous voyez un rapport comme ça, c'est la première fois, ça c'est votre souci. Mais en attendant, vous faites courir des bruits que ma fille voulait prendre la location de ce restaurant, c'est totalement faux.
Mais tout le monde, voilà.
C'est
le monde,
totalement faux et c'est honteux.
Mais Gérard, voilà. je pense que si certains ont pensé ça, c'est parce qu'ils ont eu tellement l'habitude de pratiquer comme cela qu'ils pensent que les autres le font. Je vais mettre le rapport aux voix. Vous pouvez ouvrir le vote. Je mets le rapport aux voix. Vous pouvez ouvrir le vote. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Voilà, tout le monde a voté. Le vote est clos. Alors, il y a 32 oui, il y a 10 non, et il y a une abstention et une non-participation au vote. Donc, le dossier est adopté. Et maintenant, je passe au rapport numéro 33. Et la parole est à Jean-Marie Herzog sur la ZAC du Parc à Ballons.
Oui, merci, monsieur le maire. Comme chacun a pu le lire, donc, c'est le bilan actualisé au 31 décembre 2014 et l'avenant numéro 6 sur le Parc à Ballons. Et donc, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le bilan actualisé au 31 décembre 2014 de la ZAC du Parc à Ballons, tel qu'il figure en annexe, d'approuver l'avenant numéro 6 annexé au rapport et d'autoriser monsieur le maire à le signer.
Merci. Oui, monsieur Schmitt.
Moi, je vais un peu raccourcir mon intervention. Moi, je souhaite avant tout connaître la position de la municipalité sur le devenir des espaces non encore urbanisés dans la ZAC du Parc à Ballons. Il y a également le prolongement de la desserte qui avait été à un moment donné envisagée. Est-ce qu'elle est toujours envisagée? Parce que je pose cette question parce que lors du dernier conseil de quartier Miotte, un habitant vous avait interrogé sur ce sujet-là et vous avez répondu que vous étiez interrogatif sur la nécessité de terminer l'urbanisation de cette ZAC. Les raisons mises en avant seraient la difficulté à trouver des investisseurs pour la poursuite du programme immobilier. Alors moi qui habite au parc à ballons, je pense quand même que c'est un quartier très agréable. J'y habite depuis de nombreuses années. Nous avons à proximité le parc urbain de la Savoureuse, la Coulée Verte, et les temps d'effort et bien d'autres choses en cours. On est très proche de la vieille ville, du marché, du centre-ville et des commerces. Ah, vous avez dit, monsieur le maire, avant, avait parlé de besoins forts dans la commune. C'est quand même un endroit qui est plutôt agréable. Et je ne comprends pas pourquoi on abandonnerait aujourd'hui cette urbanisation du parc à ballons.
Non, mais attendez, on n'abandonne pas. Si vous avez des investisseurs qui veulent investir, qu'ils le fassent, oui, mais malheureusement.
Mais pourquoi?
Parce que ça a été saccagé. Cette ZAC du parc à ballons a été mal conçue. Et beaucoup d'habitants vous le disent.
Laissez-moi finir, monsieur le maire.
Attendez. Je parle ou vous parlez?
Je parlais.
Ah, excusez-moi, je croyais que vous aviez.
Donc, simplement, on peut être d'accord sur le principe, sur la vue de l'architecture du parc à ballons, mais les zones sont quand même agréables et il pourrait certainement se faire quelque chose avant d'engager un nouveau projet qui peut-être sera pas plein non plus. Alors vous dites que tout est plein, moi j'y crois pas trop, quoi. C'est quand même très bien situé et plein de gens. Quand on se promène devant chez moi, viennent m'interroger, est-ce que vous ne voulez pas vendre votre appartement? Est-ce que vous savez s'il y en a à vendre dans le quartier? Donc, il y a quand même des demandes dans ce secteur-là. Avant d'aller plus loin, terminons ce projet, d'autant que si on ne le finit pas, la ville va payer, aura des charges, elle aura des charges qui vont impacter le budget municipal.
Non, mais on veut, je veux dire, on n'a pas d'investisseurs pour le moment. On a fait nettoyer, on a fait un certain nombre de choses pour essayer de le rendre plus attractif, mais il y a des choix qui ont été faits de mélange des genres qui ne sont pas cohérents. Il n'y a pas eu une vision cohérente. Et par rapport au premier projet qui avait été présenté il y a une vingtaine d'années, où il devait y avoir des commerces, où il devait y avoir un certain nombre de choses, il y a eu des choix qui ont été faits qui font que maintenant, c'est difficile. Si on a des opportunités, on les saisira. Mais pour le moment, nous n'en avons pas. Et je parle sous le contrôle de Jean-Marie Herzog qui essaye de commercialiser tout ça. C'est compliqué, alors que nous avons des demandes sur d'autres secteurs. Le problème, c'est que quand quelqu'un veut acheter, il a des critères et il fait ses choix. Et le problème, c'est que ce n'est pas vous qui imposez aux gens, c'est les gens qui choisissent. Parce qu'ils ont le choix. Et si vous ne proposez pas à Belfort ce qu'ils veulent, ils vont habiter ailleurs. Le président du conseil de...
C'est surtout en tant que vice-président d'agglomération en charge de l'habitat que je vais intervenir, mais je crois que M. Schmitt, l'immeuble médiataire qui sort enfin de terre n'est pas totalement encore vendu. Vous avez la chance que des gens vous interpellent pour savoir si vous vendez votre appartement. Moi, je connais quelques personnes dans la résidence Villas-Faux en face de la vôtre qui ne me disent pas exactement la même chose. Je croise parfois des gens des Villas Sullivan qui me disent qu'ils ont plutôt l'impression quand même que leur habitation, qu'ils ont payé fort cher à l'époque quand vous aviez lancé cette zone, c'était fortement déprécié. Je crois qu'on ne peut pas toujours tout mélanger, le collectif, l'individuel, mettre du social au milieu du privé. Enfin, il y a une volonté de mixité sociale qui est probablement fort intéressante, mais qui n'a pas fonctionné sur ce parc à ballons. Alors, à un moment, il faut... Mais Monsieur Schmitt, loin de moi l'idée de vous mettre en accusation. J'ai juste que vous avez de la chance par rapport à vos voisins. Vos voisins de quartier, monsieur Schmitt.
Laissez Yann s'exprimer, après Jean-Marie Herzog, on a compris ce que vous voulez dire, nous on vous répond.
Mais je vous garantis que Jean-Marie travaille particulièrement sur ce dossier, on vous l'a dit, il y a très peu d'espaces qui permettent encore de construire de l'immobilier sur Belfort. Si l'occasion se présentait, il est inenvisageable que nous ne la saisissions pas. Et je voudrais terminer en dérivant totalement du rapport. Et en vous saluant, Monsieur Schmitt, pour votre comportement de dimanche, puisque vous étiez le seul conseiller municipal d'opposition à tenir un bureau de vote, et je tenais à vous en remercier.
Merci. Non, je veux dire, Jean.
Oui.
Jean-Marie. Bon,
oui,
puis après, on vote, hein, parce qu'on va
oui,
pas.
Oui, vous voyez, Monsieur Schmitt, dessus, dans la révision du PLU, il y avait un espace de 33 mètres de large pour faire une traversée, pour venir depuis la gendarmerie, pour aller à l'autre gendarmerie.
C'est un truc que nous avons aboli, car croyez-moi que tout au début, on voyait que des panneaux à louer, à vendre et ainsi de suite. Nous avons fait nettoyer, car je pense que quand on veut vendre une voiture, on la nettoie. Donc nous avons eu le mérite de tout nettoyer et de l'entretenir au moins 2 fois par an. Et quand vous le regardez, que vous l'avez voté, voté ou pas voté, au budget, nous allons entreprendre des travaux, un premier tronçon pour 2016 et un deuxième en 2017 pour encore améliorer, pour essayer d'avoir des investisseurs qui viennent à cet endroit. Et croyez-moi que chaque coup qu'on en a, on dit, et le parc à ballons, voilà la réponse. Alors croyez-moi que ce n'est pas de la municipalité qui ne veut pas, c'est les investisseurs qui ne veulent pas aller à cet endroit-là. Alors laissez-nous un petit peu le temps, laissez un petit peu en jachère, laissez reposer, calmez le jeu et nous allons réellement leur vendre, je vous en garantis.
Bien, on va mettre maintenant ce rapport aux voix, donc nous pouvons ouvrir le vote. Le vote est ouvert, vous pouvez voter. Voilà, le vote est clos. Alors, 38 oui, 6 abstentions, pardon. Rapport numéro 34, c'est un rapport sur le régime indemnitaire. C'est la mise en place d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise, de l'engagement professionnel. Il s'agit simplement... Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser à compter du 1er janvier 2016 une transposition du régime indemnitaire actuel des cadres d'emploi des administrateurs et des attachés territoriaux reposant sur le remplacement de la PFR par l'IFSE et le CIA compte tenu de l'abrogation de la prime de fonction et de résultat au 31 décembre 2015. Il s'agit simplement de se mettre en adéquation avec la loi. Cette modification ne nécessite pas d'inscription de crédit, mais simplement un changement de nom. Voilà, donc je vais demander un vote. Le vote est ouvert. Vous pouvez voter. Voilà, le vote est clos. Donc je vais... Attendez, c'est pas fini. Je vais suspendre... la séance et je vais proposer que l'on donne la parole à des gens dans le public s'ils veulent s'exprimer. Oui, mais je vais vous y répondre aussi après. Je suspends, je n'ai pas clôturé. La suspension reprend après. Oui, madame. Il faudrait... le micro est là-bas. Là-bas, voilà.
Monsieur le maire... J'ai été très étonnée de constater la disparition de l'arbre de la laïcité, planté par le maire Étienne Bousbac le 9 décembre 2010, anniversaire du vote de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État. Loi pilier de notre République, qui fait la valeur universelle de la France, en Europe et dans le monde entier. Ce cerisier fut planté sur l'îlot Foch, à côté de la pyramide bleue, place de la Révolution française. Une plaque rappelant le sens de la laïcité l'accompagnait. Qu'est devenu cet arbre ? En même temps, je m'interroge sur le sens de la laïcité de votre équipe. N'avez-vous pas détruit cet arbre symbolique intentionnellement ? Parce que vous n'accordez aucune valeur à ce principe ? En effet, vous avez affirmé n'accueillir que les réfugiés politiques chrétiens parce que, avez-vous dit, ils sont les plus persécutés.
C'est insultant. Donc je vous demande de retirer le fait que j'ai détruit cet arbre. Cet arbre a disparu, la municipalité n'y est pour rien. Je la prends là. Je ne vous permets pas de me mettre en cause. Et si vous maintenez vos propos sans les retirer, je déposerai plainte parce que c'est clairement de la diffamation.
Donc, je n'ai pas une affirmation, c'était une question. Pourquoi il a disparu.
Madame. Donc, vous retirez vos propos, j'en prends note.
J'ai dit que je ne sais pas pourquoi il a disparu.
Ah ben, moi non plus, madame, mais je ne suis pas voilà. Policier. Donc, voilà.
Alors, je continue. Certes, certains le sont. Vous avez dit que les réfugiés politiques chrétiens, parce qu'avez-vous dit, ils sont les plus persécutés. Certes, certains le sont, mais d'autres non-chrétiens le sont au moins autant, sinon plus qu'eux. Je pense à tous ceux dans ces pays qui défendent la liberté d'expression. Même l'évêque de Belfort a encouragé ses fidèles à accueillir les réfugiés politiques ou sinistrés de guerre, sans distinction de religion. Seriez-vous plus chrétien que l'évêque de Belfort ? D'autre part, s'agissant des manifestations patriotiques accompagnées d'une messe, pourquoi vous y rendre en tant que maire, représentant de tous les citoyens de la ville ? Vous pouviez vous y rendre en tant que chrétien, mais pas avec votre écharpe tricolore. La distinction entre chrétien et citoyen date de la Révolution française. Depuis, on peut être citoyen sans être chrétien. Par contre, je vous félicite de n'avoir pas invité l'évêque ou autre représentant religieux comme personnalité officielle devant le monument aux morts, aux côtés de monsieur le préfet, du président du conseil départemental et des représentants de l'armée. Je vous prie, monsieur le maire, d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations.
Alors, chère madame, déjà, donc vous pouvez reprendre le micro pour l'intervention suivante, Laurent. Donc, chère madame, déjà, sur cet arbre de la laïcité, je ne sais pas, vous rendez le micro, madame, il n'y a pas de discussion. Non, vous rendez le micro ou je demande à la police de vous le reprendre. Je veux dire, c'est très clair. Il y a des règles, vous posez votre question, il n'y a pas... Non, mais enfin, je veux dire, madame... Madame, je veux dire, c'est très clair. Non, mais enfin, écoutez, est-ce que je peux répondre ? Sinon, j'interromps la séance et je lève. S'il y a encore des lazis de cette façon, j'interromps la séance. Madame, sur l'arbre de la laïcité, je ne sais pas où il est passé. On va en replanter un s'il faut. Voilà, donc j'ai entendu vos choses. Ce n'est absolument pas la municipalité qui l'a enlevé. On en replantera un. Yves Vola va nous trouver un bel arbre qu'on replantera à cet endroit. Je n'ai rien contre la laïcité. Sur l'histoire des messes, c'est très étonnant parce que vous vous faites le relais de monsieur l'ancien adjoint Kern et je dois vous dire que j'ai fait une grosse erreur. J'ai repris le carton d'invitation de l'ancienne municipalité que j'ai remis et il y avait effectivement la messe qui apparaissait. Il y a toujours eu une messe et je me suis effectivement rendu à la messe et personne ne m'empêchera jamais d'aller à une messe comme je me rends à la synagogue, comme je me rends à la synagogue pour la cérémonie de la déportation, comme je me rends à la mosquée quand il y a la rupture du jeûne. Je ferai toujours comme j'ai envie de le faire et je ne vois pas où il y a une rupture pour un maire de se rendre partout. J'ai été à la messe parce qu'il y avait une messe pour les anciens combattants, c'était pour honorer les anciens combattants. Quand je vais à la cérémonie de la déportation, il y a une cérémonie à la synagogue, je m'y rends. Quand il y a la rupture du jeûne, je vais à la mosquée et je trouve que c'est honorer l'ensemble de nos concitoyens que de respecter l'ensemble des religions dans ce pays. La laïcité, ce n'est pas l'interdiction des religions, c'est le fait qu'il n'y a pas de religion d'État. Et je n'impose pas de religion au sein du conseil municipal. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire, de croire en Dieu, en Mahomet ou en Vishnu, s'il le souhaite. Simplement, j'estime que j'ai le droit de me rendre où j'ai envie de me rendre, dans le respect de tout le monde. Et je dirais à certains laïcards que la tolérance, c'est aussi de respecter ceux qui croient. Je respecte ceux qui ne croient pas. J'entends qu'on respecte aussi ceux qui croient. C'est ce que j'appelle la tolérance et la démocratie, madame. Monsieur voulait prendre la parole.
Merci. Bonsoir. Monsieur le maire, vous avez décidé de remettre en cause l'organisation actuelle des centres socio-culturels en proposant la création d'une association unique qui va supprimer de fait les 10 associations et donc les 10 conseils d'administration qui aujourd'hui gèrent ces structures. Cette réforme à la hussarde est aujourd'hui très contestée par la plupart des membres de leur conseil d'administration et par les membres très nombreux qui s'y investissent bénévolement et avec enthousiasme depuis de nombreuses années. Monsieur le maire, vous devez entendre ces contestations qui grossissent de jour en jour, notamment dans les réunions organisées à ce sujet ces derniers jours. Au nom de l'association de citoyens belfortins Belfort 2020, je vous demande donc, monsieur le maire, le retrait de ce projet. Merci.
Merci monsieur. Oui, Boots Back Comeback 2020, effectivement, vous avez créé une association pour faire revenir l'ancien régime. Je voudrais quand même vous dire, cher monsieur, que si nous ne mettons pas en place cette association, 4 centres culturels auront disparu dans les 3 ans qui viennent. Et contrairement à ce que vous dites, vous envoyez à chaque fois des petits groupes de militants pour nous arpaguer. Vous avez un système très clair qui est d'envoyer un petit groupe de militants ou d'anciens adjoints au conseil municipal dans certaines réunions pour attaquer... Pour vous dites par exemple, vous et le groupe Bootsback Comeback 2020, qu'il faut que nous allons supprimer le ski aux classes de CM1 et de CM2. Parce que nous envisageons, et des parents s'étaient plaints, que des enfants passaient trop de temps dans les bus et il y avait 4 séances de ski et on passait des heures dans les bus. Donc nous proposions de faire 3 séances plus longues pour réduire le temps dans les bus et nous avons proposé de discuter là-dessus. Alors on explique, oui, vous vous rendez compte, ils vont supprimer le ski et tout, et c'est l'association dont vous faites partie avec les anciens adjoints et les membres de l'association Bootsback Comeback 2020, où vous essayez d'entretenir cela. Mais malheureusement, monsieur, il y a effectivement des gens qui sont contre cette mutualisation. C'est d'ailleurs assez amusant parce que ceux qui sont contre sont ceux qui ont proposé le principe de l'ACSB, qui était justement la mutualisation des centres. Simplement, comme c'était quelque chose de socialiste, l'association, évidemment, est tombée, elle était mal gérée, donc elle est en quasi faillite et quasi destruction. Marie-Hélène Yvol essaye de reprendre cela en étant un peu plus sérieux et en organisant un peu mieux les choses. Donc ce que vous faisiez hier en le loupant était bien, et ce que nous allons faire aujourd'hui en le réussissant sera mal. Eh bien écoutez, nous verrons bien les choses. Alors maintenant, il y a monsieur l'ancien adjoint qui veut venir nous dire que tout était bien avant et que tout est mal maintenant. Monsieur Simon, je vous repasse la parole.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs, c'est vraiment un vrai plaisir de vous revoir, monsieur le maire. Et donc, je suis effectivement Gérard Simon, président de l'association Belfort 2020. Je suis pas ancien adjoint. J'étais conseiller municipal délégué. Non, mais excusez-moi, j'aime bien l'exactitude des choses. Alors, lors de la dernière intervention, vous avez eu la délicatesse de m'affubler du qualificatif de menteur. Alors, je voulais quand même vous dire, puisque j'ai pas pu vous répondre, que j'ai pas trouvé ça très élégant. Par ailleurs, vous avez caricaturé l'association que je préside, vous continuez à le faire, c'est la seule réponse que vous avez trouvée, mais en fait je comprends là que vous avez besoin d'explications, et donc je me permets de vous les donner. C'est une centaine de citoyens qui ont souhaité créer cette association, reposant sur des valeurs de tolérance, d'écoute, de partage, permettant l'ouverture d'un espace de débat et d'échange. Nous partageons des valeurs de gauche. Je comprends que ça vous dérange. Cette association a été officiellement déclarée le 19 juin 2015. Un grand nombre de nos concitoyens ne font plus confiance aux partis politiques, en rejoignant pour certains la masse silencieuse et de plus en plus nombreuse des abstentionnistes. Quand d'autres se laissent aller par le discours démagogique et populiste du Front National, au moins sur ce constat, nous pourrions être d'accord. Le sentiment que les élus ne peuvent plus grand-chose ou ne sont pas à l'écoute est de plus en plus grand. L'individualisme, le repli sur soi, la peur de l'avenir, la peur des autres sont alimentés par le contexte économique et le contexte financier international. Notre association a pour but de soutenir l'action du groupe d'opposition municipale qui regroupe les élus socialistes, écologiques et du Parti radical de gauche, entre autres. Nous ne sommes pas un parti politique. Les partis ont leur place et leur rôle à jouer. Les citoyens non encartés, les militants de gauche, les gens ouverts à la discussion sont le bienvenu à titre individuel. Nous ne sommes pas une association d'élus. Nous... Excusez-moi.
Simon, non,
j'ai patienté jusqu'à maintenant. J'aimerais bien que vous attendiez que j'ai terminé mon intervention.
Doit porter sur des questions relevant de la gestion communale.
Non, mais je suis en train de vous expliquer ce qu'est l'association, oui. Puisque il semble que vous n'avez pas très bien compris.
Non, c'est pas la gestion communale. Alors, allez à votre question.
Donc, je termine. Ensuite, voilà. J'aurai des questions. Ensuite, j'aurai des questions. Donc, nous serons présents dans le suivi des dossiers municipaux. Nous ferons entendre... Excusez-moi...
Non, mais soit vous terminez, soit j'arrête la suspension. Terminez votre discours.
Excusez-moi, monsieur Meslot, mais j'aimerais bien que pendant mon intervention, il n'y ait pas des colibés.
Ah ben... Bon, monsieur Simon, si vous vous interrompez, allez-y. Monsieur Simon.
J'aimerais bien terminer.
Bon, écoutez, si vous continuez, oui. je clôt le conseil municipal si vous continuez. Alors, allez-y. La question.
Donc, le deuxième point, après cette présentation que je voulais aborder, concerne les nouvelles règles de fonctionnement du conseil municipal. Et donc, j'aimerais qu'on puisse revenir aux anciennes règles, c'est-à-dire que les citoyens puissent intervenir en début de conseil et non en fin de conseil. Parce que je sens que tout le monde est bien énervé et que j'ai bien du mal à terminer mon intervention. D'autre part, il serait intéressant que quand même les rapports, puisque nous sommes dans la salle et nous assistons au conseil, soit, mais il faudrait que les rapports soient pour certains plus détaillés de façon à ce que nous puissions bien les comprendre et apprécier les débats démocratiques. D'ailleurs, je remercie les adjoints qui ont fait cet effort. Ensuite, le troisième point que je voulais aborder concerne la santé. La décision de localiser l'IFSI et de créer une école de kinésithérapie sur le campus de Montbéliard dans des locaux neufs a été prise par la région. Soit. Vous vous êtes dédouané en rejetant la responsabilité du choix sur la région. Mais avez-vous suffisamment argumenté ? Je vous ai entendu dire sur les ondes que finalement c'était un partage équitable entre nos amis de Montbéliard et de Belfort, et que Belfort n'était pas arc-bouté sur la nécessité de tout avoir, qu'il fallait savoir partager. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord parce que le partage est parfaitement inégal. Certes, le nouvel hôpital est sur le territoire de Belfort, mais à équidistance entre Belfort et Montbéliard. À Montbéliard, au mi-temps, des soins de suite de 120 lits, à Bavilliers 60, et encore à Bavilliers, pas à Belfort. L'oncologie, la radiothérapie sur le mi-temps. Sur le mi-temps, un cabinet de radiologie sera créé, une maison médicale, un cabinet médical de garde. Il y a là une vraie dynamique qui pourra attirer d'autres professionnels de santé et d'autres structures. Sur Belfort, plus rien. Certes, l'IRM rue de Mulhouse sera géré par le privé. L'avenir de la clinique de la Miotte est incertain. On parlait même d'un regroupement sur Montbéliard. Alors, nous voudrions savoir où en sont vos discussions avec le directeur. Vous les aviez évoquées lors de la réunion à la Maison du Peuple. Et donc, on aimerait avoir des informations complémentaires parce qu'on voit que du côté de Montbéliard, ça avance et on aimerait bien que ça avance aussi ici. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est la gériatrie hospitalière. En 85, je me suis intéressé à une formation en gériatrie. C'était une nécessité face au vieillissement de la population. À l'époque, j'étais bien seul. Actuellement, 30% des personnes hospitalisées ont 70 ans et plus. 15% ont 80 ans et plus. Un tiers des personnes de plus de 80 ans sont hospitalisées au moins une fois dans l'année. La nécessité de développer une gériatrie de qualité a été mon objectif. Pendant 30 ans, j'ai créé le conseil gérontologique, la fédération de gérontologie, le service de médecine interne et gériatrie, l'équipe mobile de gériatrie, l'hôpital de jour de gérontologie, l'unité de gériatrie aiguë, la filière gériatrique avec le secteur ambulatoire et la confédération de gérontologie. J'ai formé 5 gériatres et construit un projet gériatrique pour
le
nouvel
hôpital.
Vous n'allez
pas nous faire votre parcours.
Je pense que votre conseiller en santé vous a informé de la gravité de la situation. Il se trouve que par dépit et par manque de soutien, les 3 gériatres du site de la rue de Mulhouse ont quitté le service. Il n'y a plus de gériatres sur le site de la rue de Mulhouse en service de court séjour. À Montbéliard, c'est le même constat. 2 gériatres quittent l'hôpital et une sera prochainement en retraite. Il faudrait un minimum de 7 gériatres pour l'hôpital, pour le nouvel hôpital, pour le service de 30 lits de gériatrie et pour les 15 lits d'unité de gériatrie aiguë qui, à mon sens, ne pourront pas fonctionner. Il ne reste qu'un seul gériatre. C'est dramatique car ces gériatres étaient formés, compétents, dynamiques. Le nouvel hôpital ne peut pas se passer d'une filière gériatrique organisée, fluide et efficace. Vous êtes président ou vice-président du conseil de surveillance et je vous demande que vous demandiez lors du prochain conseil de surveillance un rapport sur ce problème. J'ai été long, je m'en excuse, mais j'ai participé, j'ai assisté à l'ensemble des débats, j'ai attendu jusqu'à la fin, et je vous remercie de m'avoir écouté et de ne pas avoir interrompu.
Bon, alors, moi, je voudrais quand même vous dire que vous manquez pas d'air. Parce que vous avez dit vous-même que vous êtes président d'une association de soutien au groupe socialiste, mais que vous n'êtes pas adhérent du Parti socialiste, je vous comprends un peu, mais je voudrais quand même vous dire que sur l'installation de l'école d'infirmières, la région, par le biais de Madame Marie-Marguerite Dufay et par le biais de son vice-président, Monsieur Denis Sommer, la région devant financer 50% et l'hôpital 50%, la région a dit si on ne met pas l'école d'infirmières à Montbéliard, on ne finance pas. Alors, moi, je veux dire, si vous avez quelque chose à dire, vous téléphonez à vos camarades Sommer et Dufay pour vous plaindre. Et puis, très honnêtement, vouloir essayer de nous expliquer qu'alors qu'on a l'hôpital, qu'on a la gare TGV qui nous rapporte quand même un petit peu d'argent. Je veux dire, c'est quand même l'hôpital, c'est 1 million d'euros de ressources pour le territoire de Belfort. Je veux dire, il faut quand même pas exagérer. Bon, j'aurais préféré qu'on ait l'école d'infirmières là. Elle s'est installée. J'aurais pu faire la guerre à la région, comme vous le suggérez. Il faut aussi qu'il y ait un équilibre des territoires, parce que vous parlez, vous êtes un beau parleur, mais je veux dire, si on met tout à Belfort et rien à Montbéliard, comment on construit l'aire urbaine? Comment on construit le pôle métropolitain? Il y a un moment où il faut aussi qu'il y ait une équité de traitement entre les deux. Et quand on a une responsabilité d'une communauté d'agglomération et qu'on construit un pôle métropolitain, il faut qu'il y ait un équilibre des territoires. Et oui, évidemment, j'aurais préféré que ce soit à Belfort, mais je comprends qu'il y ait un équilibre des territoires qui se fasse au profit de Montbéliard. Et c'est pourquoi je n'ai pas décidé d'attaquer les positions de la région et que je ne ferai pas une polémique. Vous voyez, à quelques jours des élections, je ne ferai pas une polémique à Marguerite Dufay là-dessus, parce que je pense qu'il y avait une certaine logique. Alors, ça a été, j'ai trouvé ça brutal de dire si ce n'est pas là, on ne finance pas, mais il y a une certaine logique dans l'équilibre des territoires et on ne peut pas tout avoir. Donc, voilà ce que je voulais vous répondre. Donc, je reprends le conseil municipal. Madame Jabert nous a posé deux. Oui. Non, il n'y a pas de débat avec le. C'est prévu dans le règlement. Donc, mais il pourra y avoir un débat à un autre endroit, mais on pourra le faire. Parce que si on autorise le débat d'un côté, il y aura le débat des deux. Donc voilà. Donc, Madame Jabert nous expliquait, est-ce qu'on peut me donner le règlement intérieur, a posé deux questions orales pour le conseil municipal. Elle nous dit qu'elle pense que le fait de faire parler les gens à la fin n'est pas conforme à l'article 2. Alors, je vais vous relire l'article 2 qui sera ma réponse à la question de Madame Jabert. Hein. C'est bien ça, votre première question orale. Hein. Donc, article 2, le maire, avant l'ouverture de la séance ou lors d'une suspension de séance, je rappelle, l'article 2 a été voté par les camarades qui géraient la commune avant. Hein. Le maire, avant l'ouverture de la séance ou lors d'une suspension de séance, peut donner, c'est peu d'obligation, la parole à des citoyens belfortins qui lui demandent, sur des questions relevant de la gestion communale, il ne peut pas s'instaurer de débat entre l'intervenant et les membres du conseil municipal. J'ai donc fait une suspension de séance, j'avais même fait deux, aujourd'hui, pour permettre à des gens de s'exprimer. Nous sommes donc conformes au règlement que les camarades ont voté il y a quelques années au conseil municipal. La deuxième question de Madame Jabert porte sur le magazine Belfort et vous, où elle me dit qu'elle souhaiterait que l'opposition puisse avoir, elle me dit que légalement, l'opposition devrait avoir une tribune. Donc, je fais expertiser ça par les services juridiques. Et si elle a raison, nous ne manquerons pas de donner une tribune si c'est une demande de l'opposition et que c'est conforme à la réglementation. Nous, nous plierons à la réglementation. Voilà les deux questions. Et les deux réponses. Ah, moi, j'attends un avis juridique. Je ne suis pas juriste de formation. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je termine le conseil municipal.